qu'ils font plaisir les messages dans le chat de bon matin. Il est 6h15. Voilà, et j'en lis quelques-uns qui sont autant d'expresso pour mon petit cerveau et mes petits yeux. Manubis, à l'instant, en tant que gamer depuis la NES en 86, je tiens à dire que tu es une machine de travail, Samuel, merci beaucoup. Je te regarde depuis le Mexique, il est 22h pour une fois que je peux te regarder en live. Il n'y a vraiment que pour un marathon, une revue de presse, Sam, que je peux me lever tôt sans taffer. Je sais que l'ami Sugar est en vacances, et il est pourtant là. Mamie Zestouille, merci beaucoup. L'ami Sugar qui a gagné des boosters Pokémon. Lors d'une petite animation que j'ai fait, c'était samedi. C'était une bonne surprise. Je vous raconterai ça. Tu vas. Oui. C'est le début des vacances. Il fait le live tôt pour profiter de sa famille pendant le reste de la journée au soleil. Pas du tout. Pas du tout. Ouh, ce raid qui fait plaisir. Amir Avus, merci. On se croise. Je pense que tu finis un live. Oui, Samuel, oui, s'il te raid, Ravu, c'est qu'il finit un live. Excusez-moi, je ne suis pas encore très très réveillé. Normalement, la revue de presse, c'est vers 9h et c'est 6h ce matin parce que j'avais un rendez-vous à 10h. Merci beaucoup. Est-ce que je connais Ravus? Qui ne connaît pas Ravus? Oui, Ravus, ma biche, oui, celui-ci, il n'y en a qu'un. Ouais. Samuel Lapoutre, je ne sais pas, je ne connais pas celui-là. Vous étiez sur quoi? Pour être sur quelque chose à 6h, vous étiez sur quoi? Ça regardait Dark, la série Netflix, un banger. Ah. Dark, attends, je mets mon Netflix. J'ai la tablette de l'iPad et aussi la tablette de Netflix. Dark, bien. Je regarde. Dark. C'est pas trop violent, quoi? Genre, moi, les trucs violents, j'ai peur. C'est ancien. Ah, je suis dessus. Dark. Dans cette série cérébrale, considérée comme l'un des shows télévisés les plus hallucinants, des secrets sont révélés lorsqu'un garçon disparaît d'une petite ville. Si t'as jamais vu, c'est incroyable et compliqué à suivre. Ça fait peur ou pas? Ça a l'air bien, ouais. Est-ce que ça fait peur? Non, c'est mystérieux, beaucoup de suspense. Ok, je me la mets en... Ah, je l'avais déjà mis dans mes favoris. Alors, quelqu'un avait dû m'en dire du bien, car je l'avais déjà mis dans mes favoris. Ok. Merci Ravus, merci Amine Ravus. Je sais pas si la commu de Ravus a un petit nom. Je sais pas si vous avez un petit nom de commu. Mais c'est de côté. Il y a des bons retours dessus. Ok. Merci encore. Pour l'instant, j'ai du mal. J'ai où? Voilà. Ça fait longtemps. Il fut un temps, longtemps, pendant des années, je me suis réveillé à 2h du matin pour arriver au travail à 3h. Les poutres, votre petit surnom, c'est les poutres. Et ça, je sais pourquoi. Un truc avec le bâtiment, hein. Ça aime bricoler, ça aime un petit coup de chantier le week-end, c'est ça. Ouais, moi, je suis nul là-dessus, moi. Les poutres, ok. Tout ce qui est consolidation, quoi. T'as capté? Bah oui, tu m'étonnes. Waouh. Une belle bande de bricoleurs, ouais. C'est ça. Samuel, montre-leur le zizi. Ok. D'accord. Il y a un gars dans le chat qui dit: vas-y Sam, montre-leur le zizi. Il ne s'attendait pas à ça. Je ne suis pas réveillé. En général, quand je manque de sommeil, je fais des dingueries. Donc, ok. Ok. Arrive. Je l'avais enlevé du décor parce que je me suis dit, pour les OP et tout ça, c'est gênant quand même. Vous savez, il y a toujours des comptes sur le réseau du Chétan X mal intentionnés qui font des clips. Il est là. C'est un cadeau d'une vieweuse au festival MVP il y a quelques jours. Voilà, je l'avais mis dans le décor et puis je me dis quand même, on parle de sujets super sérieux le matin dans la revue de presse. Et à un moment, tu parles de la guerre en Iran, tu parles de ce qui se passe au Liban, tu parles du Proche-Orient, tu parles de la crise. Tu voulais voir le zizi. Il est là. Voilà. Je le sors du cadre. Ils se font dans le décor. Oui, mais bon. Samuel, ma femme dort. Je ne peux pas rire fort. Ouh, j'ai eu peur de la suite de la phrase. Ok. Donc, longtemps, je me suis levé à 2 h du matin pendant des années pour arriver au travail à 3 h pour me présenter à 6 h. Et il y a quelques années, j'ai arrêté ça parce que bon, ben, je l'ai fait pendant des années. Puis hein, je savais que hein, le jour viendrait où je ne voudrais plus. Tous mes amis qui ont fait ce qu'on appelle en radio et en télévision des matinales, c'est-à-dire le réveil à 2 h, l'arrivée à la rédaction à 3 h, l'antenne à 6 h, hein, y a un moment où tu veux plus. T'adores ton taf, t'adores l'équipe avec qui tu es, tout va bien, mais il y a un moment où tu veux plus. Voilà. Et ce moment est venu, il est venu très tard, hein, parce que j'en ai fait des années de matinale, mais hein, il y a une année, j'ai senti que je voulais plus. C'est pas une histoire de vieillesse, c'est une histoire de cumul de déficit de sommeil. Non, parce que des matinales, j'en ai fait jeune, j'en ai fait vieux, j'en ai fait à tous les âges. Et non, c'est un moment où les années s'enchaînent et tu cumules un retard, un décalage de sommeil et ta santé commence un peu à se dérégler, quoi. Voilà. Il branle quoi pendant 4 heures avec tout le respect? Alors déjà, arrivé 3 heures et prise d'antenne à 6 heures, ça fait 3 heures à mine m'a pas tué. Donc déjà, t'as un petit problème au niveau du calcul mental. Mais il est tôt, on dit rien. Et bah, tu prépares, en fait. Le journalisme, c'est pas t'arrives devant un prompteur. Un JT, c'est pas t'arrives devant un prompteur et tu dis ce qu'il y a sur le prompteur. Hein, tu arrives et puis tu prépares et puis tu vérifies et puis tu écris et puis tu échanges avec la rédaction et tu revérifies et tu réécris et y a des trucs nouveaux qui tombent et voilà. Comme prof, ouais, c'est comme un iceberg la partie du tu ne vois que la partie immergée du travail. Comme prof. Donc tu penses que la présence en cours, c'est le travail. Oui, c'est une partie du travail. C'est pareil. Hein, exactement. Et donc longtemps j'ai fait ça. Et puis il y a une année, bah, j'ai senti que voilà, c'était la dernière année. Voilà. Et ce matin, en me levant, et ce matin, en me levant, vous savez ce que je me suis dit? Donc en gros, hier, je suis rentré, j'ai fait un aller-retour pour emmener les parents en vacances. Hélas, je les ai plus. Pour emmener les enfants en vacances, c'était cool. Et je suis rentré tard, il était 23 h minuit, par là, 23 h 30 minuit. Je suis rentré, j'ai lu les journaux, je me suis couché, il était 3 h, 2 h 30, 3 h, j'ai dormi 3 h pour être là à 6 h, 6 h 15 au studio. Et ben, je me suis dit, eh ben, ça me manque pas. Exactement, Étienne. Je me suis dit, ça me manque. Voilà. 3 h de sommeil, je l'ai fait très longtemps, je ne le ferai plus. Là, je le fais pour vous parce que je vous aime. Et une revue de presse, c'est. En fait, c'était où je faisais la revue de presse ce matin, à 6 h, ou je ne savais pas si je la faisais aujourd'hui. Parce que j'ai un rendez-vous important à 10 h, et je ne sais pas comment va se passer la suite de ma journée. Voilà. Tu vas faire comme. Voilà. Tu dois faire comme Ravu, c'est te lever à 14 h. Mais j'aimerais. Voilà. Donc. Et il y avait un monde où je streamais cet après-midi, il y a un monde où je streamais ce soir, mais il y a un monde où mon rendez-vous de 10 h faisait que je pouvais pas streamer. Et ça, non. Et ça, non. Voilà. Chez Ravus, on fait plus des revues de fesses. Eh ben chacun. Eh ben chacun son goût. On n'est pas dans le jugement ici. Chacun son petit plaisir. Moi, c'est la presse. D'autres, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire. Donc je me suis dit, parce que la revue de presse c'est le rendez-vous qu'on n'annule pas. Mais c'est quoi ce rendez-vous sans indiscret? Ah, normalement tu réponds pas à cette question, mais t'es sur Twitch et sur Twitch t'es transparent, c'est normal, c'est un rendez-vous médical. Voilà, rien de grave, c'est un rendez-vous médical. Voilà. Donc c'est le genre de rendez-vous, tu sais pas si t'as fini à 11 h ou si tu termines à 22 h, voilà. Ou le lendemain matin. Bref, je passe les détails. Mais voilà. Donc comme la revue de presse, c'est le rendez-vous que je ne veux pas annuler. Je me suis dit, ok, je leur fais un petit 6-9. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, après, elle existe en replay. Elle existe sur Twitch, en replay sur YouTube, en podcast audio. Bim bam, badaboum bam. Voilà. Petit check-up, c'est plus compliqué que ça. Mais tout va bien. Non, c'est pas une coloscopie. 6-9. Oui, un 6-9. Oui, un 6-9. Une matinale en radio, en télé, c'est souvent un 6-9. 6h, 9h, en radio, c'est ce qu'on appelle, c'est le prime. À la télé, le prime c'est 20 h, en radio c'est 6-9, en chaîne info c'est 6-9 aussi. Non, mais pas. Non, j'ai bien dit 6-9. Oh là là, pas le. Non, mais 6-9. Ouais, bah. Demandez à tous les gens qui font des matinales, c'est quoi un 6-9? 6-9, c'est 6h-9h. Pour ceux qui n'ont pas compris. C'est dingue ça. Bien. J'ai failli boire à côté du truc. À côté du trou. Ça peut être aussi un soir et un 6-9. Bah, c'est un 18-21 dans ce cas-là. Plus. Bon, vous savez, qu'est-ce que vous faites de boire ce temps-là, hein, déjà? Déjà? 18-21, limite, limite. Travail, Pignus, travail, travail. Oh la vache. Je lis. Nuit blanche pour ma part. Je finis de manger. Je regarde un streamer parler de 6-9. On se lève pour reprendre le travail, le stress. Ah, la force, force, force. Bonne. Salut Alexandra. Je coule une cafetière avant de partir au taf. Maman, donc pas le choix, reprise école des enfants. Ah! Tu bois du Coca-Cola, le Samu. Ah oui, parce que les yeux sont petits, là. J'ai bu un café, mais ça suffit pas. Ouais. Ah, c'est trop dur, là. Il y a Juju Bello, dont OBS m'indique, raider de Ravus, me dit on sort d'un stream atroce. Préparation pour le travail et farm sur WoW. Moi, je suis sur un autre fuseau horaire, me dit Damadoga. Je sors mon chien, me dit Amine Patué. J'arrive plus à dormir, beaucoup de travail. Hein. On départ pour Londres, je regarde le soleil se lever, me dit Tinerd. Rêver pour aller en cours. Parce que à Paris, c'est les vacances là. Ici, on prend pas de vacances. Hein. Et en plus, le coca te permet d'éviter le cancer. Oui, le Fanta aussi. Alors, je suis très sérieux. Pour ceux qui ne suivent pas cette revue de presse, récemment, un grand esprit nous a appris que les sodas. Notamment les sodas light zéro, type Coca, mais aussi le Fanta, tuaient les cellules cancéreuses. Qui nous a dit ça? Le président des États-Unis, Donald Trump. Voilà. Vous avez passé une dinguerie. Écoute, hein, de temps en temps, il sort les trucs. C'est faux, je pense. Oui, c'est pour ça que j'ai mis la musique du cirque, en fait. Il y a Mine Patué qui me dit c'est faux, je pense. Oui, c'est pour ça que j'ai mis la petite musique du cirque. Ça, c'est un code pour dire faut pas faire ça. Voilà. Non. Bon, en tout cas, merci d'être là de si bon matin. Merci les courageux qui se lèvent tôt. Merci les insomniaques. Et comme ça, on a la revue de presse aujourd'hui. Et demain, elle sera à l'heure normale. Mercredi, il y a un MVP, donc elle sera un peu plus courte. Jeudi, il y aura une revue de presse. Vendredi, il y aura une revue de presse. Et la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc, eh ben, il y aura quand même une revue de presse. Voilà, je pars en vacances, mais j'emmène mon petit setup de voyage. Il y aura un petit PC portable, il y aura une petite caméra, il y aura la table de mixage, il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura la tablette pour lire les journaux. Et donc, on s'arrêtera pas. Enfin, pas déconner, hein. Bon. Ok, bah je vais en profiter pour vous faire le sommaire, peut-être. Et il y aura le soleil. Non, je vais pas en Corse. Non, je vais voir ma famille au Maroc. Les habitués de la chaîne savent que souvent Pâques, c'est la famille au Maroc. Donc, ça streamera depuis le Maroc. Voilà. Tous les matins. Parce que j'ai une partie de ma famille qui vit là-bas depuis longtemps. C'est bien aussi. Ouais. Et je remercie les subs du matin, Mamie Zestouille, Luc85, que je n'ai pas remercié, La Petite Mimi TV, Xiriano, merci beaucoup. Quelle ville au Maroc, me dit Turmax. Et tu veux pas l'adresse non plus? C'est pour venir à l'apéro, ça. Tu crois que je vais faire un tagine pour la commu ou quoi? Tu m'as vu ou quoi? Juste par curiosité? Ouais. Ouais, ça veut squatter pour le tagine. Ah non, Sugar, parle pas de mauvaises nouvelles. Ah non, je ne veux pas lire cette nouvelle. Non, je dis non. Mes yeux ne refusent. Salut Louis Nin. Ok. Est-ce que vous êtes prêt pour un sommaire? Parce qu'on mine de rien, je vous ai trouvé des belles actus. Hélas, non, il y a certaines de ces actus sont assez tristes d'ailleurs. Ivre, il invite sa commu au Maroc pour un tagine. Salut Nat. Il est où mon sommaire? Il est là. Le sommaire de Boubou. Il y a du musc. Oh, bien vu, Camille. Toi, tu as lu la croix. Exactement. J'ai bien envie de, voilà, sans plus tarder, de vous faire le sommaire, c'est-à-dire de vous dire de quoi on va parler. Comme ça, à 9h, je vous abandonne. Je vais à mon rendez-vous. Voilà. Et je vous retrouve peut-être dans la journée, peut-être ce soir, ou peut-être que le lendemain matin. T'as suivi l'actu? Ouais, mais il n'y a que la croix qu'on parle vraiment en plus, tu vois. Ok? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans l'actu aujourd'hui? C'est parti pour le sommaire et on va dire bonjour à nos amis qui nous écoutent en podcast parce que eux, ils n'ont pas l'intro. L'intro, c'est que pour vous sur Twitch. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. On est lundi 20 avril 2026. Pour certains, c'est les vacances. Ici, c'est pas les vacances, c'est jamais les vacances. Même quand c'est les vacances, c'est pas les vacances parce qu'on aime l'actu. On aime le fun, on est fou, on est jeune et on aime le fun et le jeune. Non, ah, cette phrase est bizarre. Je reprends. On aime l'actu, point, on s'arrête là. Et donc là, je dis bonjour à ceux qui nous regardent en live sur Twitch. Je dis bonjour à ceux qui vont nous écouter en replay sur YouTube. Et je salue ceux qui vont nous écouter en podcast aussi. Voilà. Certains sont en vacances, hein, c'est les vacances de Pâques pour certaines zones. On s'en fout. On sera là tous les matins sur Twitch. Et à partir de 15-16h, c'est posté sur les plateformes de podcast, les Deezer, les Spotify, les Apple Podcasts et tout. Et là, on a de l'actu. Et là, sur Twitch, on a le sommaire sous les yeux que je vais vous lire. Et il y a de l'actu. De quoi on va parler aujourd'hui? D'abord, on va, je vous montre tout, rendre un hommage. Rendre un hommage parce que un soldat français est mort au Liban, membre de la FINUL, la Force des Nations Unies, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Et il y a un article tout simple, voilà, en une de la croix. La paix prise pour cible qui rend hommage à cet homme, le soldat Florian Montorio. Voilà. Et je trouvais un petit important de commencer cette revue de presse par cet hommage. Voilà. La FINUL, qui est la force d'interposition au Liban, mais ça nous donnera l'occasion de se pencher dessus. Ce qui nous donnera aussi l'occasion de se pencher sur où on en est du conflit en Iran. Voilà. On est à J-1 de la fin de la trêve de 2 semaines entre l'Iran et les États-Unis. Où on en est à J-1? Eh bien, les deux parties refont monter la pression avant la fin de cette trêve, alors que le cessez-le-feu doit s'achever mardi, écrivent les Échos. L'Iran et les États-Unis multiplient les escalades verbales et les volte-face quant à un possible accord. C'est toujours aussi tendu. Une délégation américaine doit se rendre cette semaine au Pakistan pour reprendre les négociations. Voilà. J'ai trouvé plusieurs articles ce matin sur la reprise des négociations entre les deux parties. Celui des Échos est assez clair. L'actu en France n'est pas réjouissante, réjouissante. J'étais assez frappé, pour pas dire choqué, par cet article du Monde, dernière édition du Monde que j'ai lu ce week-end. Je savais, j'avais lu, j'avais entendu parler de ces mineurs à Marseille et dans la région de Marseille, à qui avaient été donnés des contrats de meurtre, hein, sur fond de narcotrafic. Mais je m'attendais pas à ces chiffres quand même. Marseille, les mineurs sicaires du narcotrafic, une cinquantaine d'ados, c'est énorme. Une cinquantaine d'ados sont mis en examen à Marseille pour meurtre ou tentative de meurtre. Tu dis des mineurs accusés de meurtre ou tentative de meurtre à Marseille, tu dis, allez, il y en a un, deux, trois, allez, ça se compte sur les doigts d'une main. 50. C'est énorme. Voilà. Donc je me suis dit, on va se pencher sur ce phénomène, parce que là, c'est plus un épiphénomène, c'est un phénomène, pour le coup, c'est extrêmement inquiétant, je voulais absolument parler de ça. Alors du coup, l'article suivant, il a un lien direct, et c'est intéressant parce que c'est un débat qu'on a déjà eu ici sur la consommation de drogue en France, notamment de cannabis. Et il y a un article dans Le Monde qui pose cette question: si je fume un joint, ai-je du sang sur les mains? Voilà. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Une campagne ministérielle de culpabilisation des consommateurs de drogue insiste sur leur responsabilité dans les violences liées au narcotrafic. Mais les autorités pourraient s'interroger sur leur propre rôle. Alors, bien sûr que ce n'est pas si simple, estime Pascal Richer. Donc, on va parler d'addiction d'abord. Hein? On va parler de responsabilité. On va parler d'addiction. Et on va parler de légalisation aussi. Voilà. Je pense que cet article vous intéressera. Alors, dans tous les journaux que j'ai lus ce matin, il y avait un article sur Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, pourquoi est-il à la une des journaux? Il a été désigné candidat du parti LR à la présidentielle. Alors, le plus dur commence, c'est à peu près ce que disent tous les articles ce matin. Des candidats à la présidentielle en 2027, il doit y en avoir quelques-uns et quelques-unes, hein, en France. En voici un. Sur le papier, même si les sondages à un an du premier tour ne valent pas grand-chose, sur le papier, ça semble compliqué pour Bruno Retailleau, d'où le plus dur commence. Hein. Mais je me suis dit que c'était un petit peu son heure de gloire ce matin, sans être vraiment super méchant. Il n'est pas impossible qu'on ne reparle pas tant que ça de cette candidature. Je me suis dit, c'est dommage de passer à côté le lundi 20 avril 2026, parce que peut-être qu'après on n'en parlera pas trop. Voilà. Parce qu'on peut pas dire qu'il figure pour l'instant dans les favoris de cette présidentielle. Mais vous allez me dire, Samuel, c'est de la politique. Et en matière de politique, tout peut se passer. Et vous avez raison. Voilà. Donc on se penchera sur cette candidature. Elon Musk, le patron de Tesla, de SpaceX, de X, le réseau social ex-Twitter, est convoqué par la justice française, mesdames et messieurs. Hein? Elon Musk est convoqué, et pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Elon Musk est convoqué aujourd'hui, lundi 20 avril, par le parquet de Paris, pour une audition libre. Alors, est-ce que Elon Musk va se présenter devant la justice française? Non. Hein? A priori, non. Une audition libre à laquelle il ne se rendra sûrement pas. Le milliardaire est soupçonné de se servir de son réseau social X pour biaiser le débat démocratique. Biaiser, vous changez une lettre, et ben la phrase marche toujours. Incroyable. Donc biaiser avec un I. Voilà. La France est à l'avant-garde du combat judiciaire qui vise désormais ses plateformes. C'est vrai que devant ce Far West numérique qu'est la régulation sur Internet, avec ces armées de bots, de désinformateurs, de contenus problématiques sur Internet et sur les réseaux, on peut se sentir un peu, comment dire, impuissant et se dire on va jamais y arriver. Eh bien, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut encadrer les GAFAM, on peut encadrer les réseaux sociaux, on peut estimer à un moment qu'en tant que société, ça n'est pas le Far West et qu'il y a des règles. Et que les lois qui s'appliquent dans la vie réelle s'appliquent aussi sur Internet. Et donc pour ce faire, eh bien, il y a des lois, et puis quand elles ne sont pas respectées, il y a des poursuites en justice. Voilà. Il y a Ned Glanders qui dit « La photo est un peu nulle. » Pourquoi tu le vois plus beau que ça? Tu le vois comment, Elon Musk? Tu le veux, tu le trouves pas, tu le trouves pas à son avantage? Tu veux qu'il lève le bras un peu? Tu trouves qu'il n'a pas le bras assez levé? Un petit salut romain, peut-être. Voilà. Donc, un bel article dans la Croix sur la France pionnière dans les dérives des réseaux sociaux qui nous parle de Musk, qui nous parle de cette convocation judiciaire, qui nous parle aussi peut-être des outils pour lutter contre. Après, il a peut-être son bras tendu, mais en dessous, on le voit pas. Hein. Comme ça. Voilà. Et des moyens de lutter aussi contre ces excès. Tiens, à propos des écrans. Oh là là, quelle masterclass de transition ce matin! Alors le matin c'est dur, mais le soir mon cerveau est à peu près allumé. Et là je vous ai trouvé un article sur comment les écrans tuent le goût de la lecture chez les jeunes Français. Alors est-ce qu'il y a un lien direct? Attention, hein. La lecture baisse en France, et notamment chez les plus jeunes, et la consommation des écrans monte. Est-ce qu'il y a un lien direct? Peut-être. Voilà. Mais moi je serais un peu plus prudent que ce titre. Mais quand même les chiffres sont un peu inquiétants. Face à l'omniprésence des smartphones, la baisse de la lecture est généralisée et touche même des catégories inhabituelles comme les filles, les 7-12 ans et les CSP+. On lira cet article dans Le Figaro. Il se trouve que moi, je suis un amoureux de la lecture, voilà. Des livres, même si ma consommation a un peu baissé ces dernières années. Mais elle reprendra quand je prendrai ma retraite, bien sûr. Ça, et on retournera à la pêche. Donc, je crois que c'est important. C'est une fenêtre ouverte vers le monde, vers la curiosité, vers plein de choses, la musique des mots. Voilà. D'ailleurs, il y a un monsieur qui s'appelle Xavier Laurent Salvador, qui est quoi? Qui est agrégé et maître de conférence en linguistique médiévale, nom de Dieu, qui nous donne des clés là-dessus. Il faudrait enseigner le simple plaisir de lire. Je suis sûr que c'est très intéressant. Les écrans sont responsables d'une augmentation de la myopie, dit Gendreau. Ouais. Oui. La lecture aussi. Moi, je porte des lunettes depuis tout petit. Et à l'époque, il n'y avait pas les écrans à mon époque. Hein. Il n'y avait pas l'électricité. On vivait dans des petites grottes. Voilà, et il n'y avait pas les écrans, tout ça. Mais par contre, je lisais beaucoup. En fait, si tu rends ton œil paresseux, et s'il travaille toujours à la même distance, c'est un truc qui favorise la myopie. Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave. Franchement, si le prix à payer pour découvrir les trésors de le plaisir de la lecture et les trésors de la littérature, c'est d'avoir des lunettes. Ouais. Je lisais sur des fresques. Oui, je peignais des fresques. Je peignais des fresques. Des mammouths, des. Ah oui, mais Aoko a complètement raison. La lecture, c'est un moyen de s'exfiltrer du monde. Et ça fait du bien des fois. Ouais, c'est vrai. Donc on lira ça. Et puis on finira avec du sport. Artus, fils. Alors le fils de qui? J'ai toujours pas compris. Moi, je vois plein de journaux qui l'appellent Arthur fils. Et alors, bon, Arthur, fils de qui? Fils de Gaël. Ah, mon fils. Ah! Ah oui, ça fait sens. Ah, c'est le fils de. D'accord. Ah ouais. C'est le fils de Gaël, donc. D'accord. Donc Arthur fils, j'arrête mes blagues de daron bourré là. Ah, fils de Benoît Père. Je l'ai pas là. Donc Arthur fils, en pleine forme, il a été blessé. Hein. Pendant quelques mois, il revient au meilleur. Il a gagné à Barcelone, c'est son quatrième titre. Et la bonne nouvelle, c'est que juste avant Roland-Garros, alors on se prend à rêver d'une. Calmons-nous d'une victoire, d'un beau parcours d'un Français ou d'une Française à Roland-Garros et ce serait formidable que ce soit Arthur fils. Voilà. Il y avait, je crois, il y avait les premiers pas de Wembanyama aussi en merde. Comment ça s'appelle en merde, comment on appelle ça? Le truc du NBA là, le truc classe là. Les playoffs, non? Comment on, non. Les playoffs. Ça, c'est les playoffs, hein. Ouais? Et ça donnait quoi alors? Oui, je sais que c'est du basket. Merci Alexandra. On va regarder, on va regarder. Il a gagné? T'as gagné? Wemba. Je vous montre. L'actu en direct. C'était cette nuit, hein. C'est l'avantage de se lever tôt. 35 points, il a mis 35 points. C'est pas possible. Quelle machine, quelle machine. Quelle machine. Ah ouais. Ok, on se mettra à ça. Tiens, allez, vous savez quoi, on se le rejoue en direct. Au playoff de NBA. Oh, Mevoli, merci pour le raid. Dites-moi sur quoi vous étiez, Mevoli. Oh, la pub, stop! Merci, Mevoli. Attends, excuse-moi, je regarde ta chaîne. Hop. J'aime bien regarder les chaînes que je connais pas. La Miravu, je connaissais, qui nous arrête tout à l'heure. Est-ce que je te follow? Je te follow déjà. Je te follow déjà. Vous étiez sur quoi ce matin? Et on va créer une nouvelle info sur ça. Donc on lisait, pardon, ce qui s'est passé cette nuit autour de Wembanyama, Wemby pour les intimes, au playoff de NBA. Wembanyama et les San Antonio Spurs. Les Spurs en font une entrée fracassante puisque le basketteur français, basketteur. Un basketteur, ça prend pas de thé? Si, non? Oui, basketteur, c'est de thé, non? Eh ben, c'est tôt, il y a des petites fautes, ça arrive, hein. On écrit trop vite l'article. Je crois pas qu'on puisse écrire basketteur avec un seul T, si? J'essaye pour voir. Non, hein. Ouais, c'est ça. Bon, bah, ça arrive, hein. Le journalisme est une activité humaine, donc parfois on écrit trop vite. Le basketteur français avec un T donc et ses coéquipiers ont gagné leur premier match sur 7 contre les Portland Trail Blazers. 35 points pour Wembanyama. Le phénomène français devient. Alors rappelons qu'il est en course pour le titre de MVP, hein, meilleur joueur de la saison. Le phénomène français de 22 ans vient de franchir une nouvelle étape de sa carrière, comme d'habitude, à grandes enjambées. Comme il est grand, tu comprends? Grandes enjambées. C'est pas mal celle-là. Ça, c'est des blagues du matin, ça. Avec une entrée fracassante dans le nouveau monde des phases finales, hein, les playoffs. conclut par 35 points, 5 rebonds, 2 contres et une domination quasi totale. Pop, pop, pop. Après une première saison réussie, rookie de l'année, mais chiche en victoire, 22 pour 60 défaites. Une deuxième bien lancée et première sélection All-Star Game, mais terminée dès février avec une thrombose veineuse. Wemby a intégré lors de ce troisième exercice le cercle des meilleurs joueurs de la Ligue nord-américaine au cœur d'un collectif au progrès fulgurant. Incroyable. Eh ben, on se le met, on va se le rajouter. Alors, attends, regardez comment c'est beau. Ajouter. On va mettre Wemby réussit son entrée, ses débuts dans les playoffs. Playoffs, c'est comment ils écrivent ça? Playoffs, c'est collé. Il colle. Playoffs. Il colle. C'est une blague à 3 points. Oh, 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 oh. Joli. Il colle. Ils mettent un F. Je vérifie moi. Ah, je suis un maniaque de l'orthographe. Je peux pas m'en empêcher. Est-ce qu'ils mettent un S Playoff. Ouais, ça met un S. Ouais, ils mettent un S. Ok. Je vendu. S'ils mettent un F, je mets un S. Et c'est dans le Huffington Post. Regardez comment le sommaire s'est enrichi. Vous allez voir ça. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. Regardez la taille du sommaire. On peut en cacher des choses derrière un sommaire comme ça. Il est quasiment aussi grand que moi. Je pourrais être tout nu derrière. On verrait rien. Incroyable. C'est un très gros sommaire. Bon, en tout cas, merci d'être là. Bon matin, ça fait plaisir. Voilà. Et on ne fera pas des revues de presse à 6h tous les matins. Hein. Vous habituez pas, c'est exceptionnel. Pourquoi si tôt? Parce que j'ai un rendez-vous à 10h. Une poutre ce sommaire, me dit Tillerd. Ça tombe bien parce que j'ai été raid par Avus. Il y a une coquille sur Arthur Fils. Ah oui, Artus. J'ai écrit Artus, qui est con. Arthur Fils. Arthur. Heureusement que j'ai pas fait une coquille à Fils. Enfin bon, je me comprends. Ouais. Je me comprends. Bon, on y va? C'est bon, ok. On te comprend aussi. Vous savez pas, peut-être que je pensais à autre chose. Hein? Ah, salut Sam, comme dans les matinales radio, si tu pouvais donner l'heure de temps en temps pour ceux qui t'écoutent en se préparant pour aller au taf, ce serait cool. Omini 22. Il est 6h48. Je vais vous faire un truc un peu de radio. La matinée Étienne sur Twitch. Il est 6h49. Un truc un peu. Ouais. Il est 6h49. Ok. Hein, un truc comme ça. 6h49, c'est la matinée Étienne. Avec un petit jingle musical. Ding, ding, ding. Il est 6h49. C'est la matinée Étienne. Un truc comme ça. Go. Bon, hélas, on commence par les tristes nouvelles. Qu'est-ce qu'on se mettra sur YouTube d'ailleurs aujourd'hui? Si on se mettait les jeunes tueurs à Marseille et la drogue en avant sur YouTube, hein? Tous les jours. Il y a un sujet qu'on met en avant sur YouTube. La drogue, peut-être, non? Ouais, parce que c'est vraiment lourd, ça. Ouais, on fait ça. On va commencer par le premier sujet. Voilà. Triste nouvelle et hommage qu'on va rendre tout de suite à ce soldat français tué au Liban. Voilà. Alors, il y a plusieurs articles ce matin. Alors, pour le faire sérieusement, il faudrait plus de temps que ça. Il faudrait rappeler ce que fait la FINUL, la force d'interposition de l'ONU au Liban. Il faudrait revenir sur son histoire. On ne va pas le faire ce matin, mais on aura l'occasion de le refaire. Mais avant toute chose, on va rendre hommage à ce soldat. Voilà. Éditorial en une de la Croix ce matin. D'Arnaud Alibert, la paix prise pour cible. La mort samedi 18 avril, du soldat français Florian Montorio, tué dans une opération de déminage menée par les casques bleus de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, mérite qu'on s'y arrête. D'abord pour honorer sa mémoire. Ce que je voudrais faire, premier degré ce matin, honorer la mémoire de ce soldat français. Celle des militaires également indonésiens tombés fin mars, il y a d'autres soldats de la FINUL qui avaient été tués en mars. Pour souligner l'engagement de ces trois camarades blessés, puisque vous avez trois autres soldats français qui ont été blessés, dans la même embuscade, puisqu'il s'agit d'une embuscade, et celui de tous leurs frères d'armes, pour prendre part à la tristesse de sa femme et de leurs deux enfants. Voilà. Ce matin, je voudrais qu'on ait une pensée. N'hésitez pas à nous mettre des petits F dans le chat pour ça, pour ce soldat, ce militaire français et sa famille. La nation s'incline avec respect, déclarait samedi le président de la République française. Par souci de justice ensuite, les opérations de la communauté internationale au Liban répondent à une résolution des Nations Unies. En l'occurrence la 1701 de 2006, car il ne s'agit pas là de la mort d'un combattant, mais du meurtre d'un acteur du droit international, puisque le soldat français dont nous parlions était ce qu'on appelle un casque bleu, hein, soldat de la paix. Meurtre d'un acteur du droit international par un tir direct à l'arme légère, selon la ministre des Armées Catherine Vautrin, puisque ces soldats français sont tombés dans une embuscade, on leur a tiré dessus, hein, pour faire simple. Par souci de l'avenir, enfin, chaque fois qu'un soldat de la paix est frappé, une claire indignation doit être manifestée. Nous qui connaissons fort bien la dévastation que la guerre produit et qui sentons chaque jour un peu plus sa menace se faire proche sur notre continent, nous ne pouvons nous résigner à ce que la paix soit bafouée dans le silence. Les armes ont leur fracas, les appels à la paix doivent avoir leur cri. Reste l'immédiat de la géopolitique à gérer, et on va en parler ce matin. Au 31 décembre 2026, donc dans quelques mois, hein, le mandat de cette FINUL, cette force d'interposition de l'ONU au Liban, prendra fin. La force onusienne aura ensuite quelques mois pour cesser toute activité. C'est alors sur le seul gouvernement libanais que reposera la charge de la sécurité du sud Liban, face d'une part à l'armée israélienne qui empiète une nouvelle fois sur son territoire, hein, qui a pris position sur le sud Liban, même si il y a un cessez-le-feu qui a été imposé par l'allié américain, et d'autre part à la milice chiite du Hezbollah qui mine son autorité de l'intérieur. Voilà. Par fidélité à son histoire et à ses soldats, la France ne pourra s'en désintéresser. Qui a tiré sur eux, dit Ali Adair. Alors c'est des tirs qui n'ont pas été revendiqués, mais du côté de l'armée française, on accuse le Hezbollah. Voilà. Alors, il y avait quelques articles ce matin sur la FINUL, pour expliquer ce que faisait cette FINUL au Liban, mais je ne l'ai pas trouvé si clair. On est en train de rendre hommage à un homme. On a sa photo ici. Je voulais vous la montrer sur plusieurs médias. Attendez. Voilà. Le soldat français Florian Montorio qui est ici. Parachutiste du régiment de Montauban. Alors je cherchais s'il y avait un article là qui pouvait rappeler un petit peu clairement. Les missions, les responsabilités de la FINUL. Ah, regardez. Le HuffPost, c'est pas mal ça. Alors le HuffPost, c'est un site que je consomme de plus en plus parce que je le connais depuis très très longtemps. Hein. C'est le Huffington Post. Alors soyez pas surpris, hein. c'est un site d'information gratuit, donc il y a beaucoup de publicité. Il faut bien se financer par quelque chose parce qu'il est accessible gratuitement. Et dans les sites d'info gratuits, pour moi c'est l'un des bons. Voilà. Et je me surprends à le consommer de plus en plus parce que quand je cherche une information un peu de dernière minute, c'est souvent bien fait. D'ailleurs, regardez, on va actualiser le sommaire. Je vais rajouter le HuffPost dedans. Voilà. Et justement, il y a un article intéressant sur. Regardez. Sur la mission de la Finule. Au Liban, quelle est la mission des casques bleus français de la Finule, dont l'un a été tué dans une embuscade? Donc, l'armée française endeuillée, on en parlait à l'instant. Qui participe à une mission pour la. Donc, la Finule, c'est la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Régulièrement attaquée, hein, c'est une force qui a perdu de très nombreux soldats. Hein. Depuis qu'elle a été mise en place. Cette dernière a déjà enregistré des pertes dans ses rangs depuis l'embrasement au Moyen-Orient causé par les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran. Par exemple, fin mars, vous aviez trois casques bleus indonésiens qui ont été tués. Voilà. Mais dans l'histoire de la Finule, il y a eu plein, plein, plein de soldats qui ont été tués, notamment beaucoup de soldats français. D'après le décompte de l'ONU, le personnel de la Finule s'élève actuellement à plus de 8 200 personnes, dont 7 622 militaires. Qui viennent de 48 pays différents, dont la France qui compte environ 600 personnes sur place. Donc, quand je vous dis que l'histoire de la Finule, elle remonte à longtemps, la Finule a été déployée en 1978 dans le sud du pays, dans une première invasion israélienne visant à chasser l'OLP, ce qu'on appelait l'OLP à l'époque, l'Organisation de libération de la Palestine installée dans la zone. Donc, force déployée en 1978, déployée dans le sud du Liban. Le sud du Liban, dont on parle actuellement beaucoup dans l'actualité, parce qu'il a été envahi par l'armée israélienne. Et déjà à l'époque, c'est après une première invasion israélienne visant à chasser l'OLP de la zone. L'objectif à l'époque, donc à la fin des années 70, était de rétablir la paix et la sécurité internationale et d'aider le gouvernement libanais à rétablir son autorité effective dans la région. Ce qui n'est toujours pas fait aujourd'hui. À partir du 2000, de 2000 et du retrait total d'Israël du sud-Liban après 22 ans d'occupation, parce que ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire le retour de l'armée israélienne dans le sud-Liban, en fait, c'est une situation qu'on a vécue pendant 22 ans. Déjà. À partir de 2000 et du retrait total d'Israël du sud-Liban après 22 ans d'occupation, une ligne de démarcation dite ligne bleue est créée par les Nations Unies, qui charge donc cette force de l'ONU, la Finule, de garder cette frontière qui n'est pas officielle. Les casques bleus présents dans ce territoire instable, devenu un fief du Hezbollah, donc, qui est un groupe pro-iranien, ont récupéré de nouvelles missions à partir de 2006 lorsque l'ONU a adopté une nouvelle résolution après une guerre de 30 jours lors de laquelle Israël avait de nouveau attaqué le sud du Liban. Celle-ci a débouché sur la mise en place d'une zone tampon entre cette ligne bleue qu'on évoquait à l'instant et le fleuve Litani, qui est un peu plus au nord. Vous avez la carte ici. Donc la ligne bleue ici, voilà, et le fleuve Litani. Où seules les autorités libanaises et la Finule peuvent stationner. Et la Finule est chargée de contrôler la cessation des hostilités, d'accompagner, d'appuyer les forces libanaises à mesure de leur déploiement dans tout le sud. Et aussi la lutte et le désarmement du Hezbollah. Le texte prévoit aussi que les casques bleus doivent fournir assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux populations civiles. Et le retour volontaire des personnes déplacées par la guerre, donc, dans des conditions de sécurité. Mission ardue pour la Finule, fréquemment touchée par les affrontements persistants entre Israël et le Hezbollah. Quelqu'un me disait, mais pourquoi s'attaquer à une force de paix? Bon, déjà, pourquoi envahir des pays, hein? Quelqu'un me disait, mais comment ça se fait qu'on tire contre un soldat de la paix? Bah, déjà, peut-être, pourquoi on envahit les autres pays, déjà? Peut-être. Les soldats de la paix, ils ne sont là que parce que y a ce type de conflit, quoi. Et puis, par définition, les casques bleus, les soldats de la paix, ils sont souvent entre deux camps. Voilà, et deux camps qui se tirent dessus. Mais on va suivre. Il y a une enquête qui a été ouverte après la mort du soldat français, donc on suivra ça, quoi. Donc, ces missions sont ardues pour la Finule, fréquemment touchée par les affrontements persistants ici entre Israël et le Hezbollah. Les situations s'est notamment dégradée à partir d'octobre 2023. Lorsque l'État hébreu est entré en guerre contre les islamistes libanais déterminés à soutenir leurs alliés du Hamas implantés à Gaza, la guerre en Iran a provoqué une nouvelle escalade dans le sud du Liban début mars, qui a coûté la vie à plusieurs casques bleus, donc déjà trois Indonésiens, et le français Florian Montorio. Voilà, le chiffre que je cherchais, c'est celui-ci. Avec plus de 340 décès, la FINUL est la mission de l'ONU recensant le plus de morts depuis le lancement de la première mission de maintien de la paix. Voilà. Et cette mission de la FINUL, elle s'arrête le 31 décembre 2026. Voilà. Il n'y aura plus que l'État libanais dans la région, notamment pour désarmer, démanteler, mettre fin au Hezbollah pro-iranien, voilà. Ce qui est une volonté du gouvernement libanais. Le problème, c'est les moyens pour le faire, quoi. Voilà. Bon. Alors, merci au Huffington Post. Du coup, on a eu un peu plus d'éclairage sur la mort de ce soldat français à qui on voulait rendre hommage ce matin. Demain se finit cessez-le-feu, Camille. Eh ben oui. Et regarde, c'est d'ailleurs mon deuxième papier ce matin. Voilà, c'est fou, c'est passionné de l'actu qui savent tout. Bravo. On est à J-1. Alors pour le coup, c'est écrit dans les titres. De la fin du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. C'est demain, mardi. Où on en est? En gros, est-ce que dès demain, ils vont se retaper dessus? Est-ce que le cessez-le-feu va un peu tenir? Où on en est? On a plusieurs papiers ce matin, notamment celui-ci dans les Échos qui fait le point. Les États-Unis et l'Iran refont monter la pression avant la fin de la trêve. On a beaucoup de déclarations de part et d'autre. On va voir quelles sont-elles. C'est un papier dans les Échos. Alors que le cessez-le-feu doit s'achever mardi, donc demain, l'Iran et les États-Unis multiplient les escalades verbales et les volte-face avant un possible accord. Quant à un possible accord, une délégation américaine doit se rendre cette semaine au Pakistan pour reprendre les négociations. Vous savez qu'une délégation américaine s'est déjà rendue il y a 15 jours à Islamabad, au Pakistan, pour tenter de trouver un accord de paix avec les Iraniens. Résultat, rien du tout. Tout le week-end, l'Iran et les États-Unis ont soufflé le chaud et le froid quant à l'avenir du conflit au Moyen-Orient, qui dure depuis, je sais plus moi. Combien de temps il dure ce... Ça fait combien de temps déjà? Ah, mais le Pakistan est aussi là-dedans? Bah oui, le Pakistan comme médiateur chouchou. Comme facilitateur de paix. Ça commence quand alors? 28 février. On est bientôt à 2 mois. On est bientôt à 2 mois. Ok. On est bientôt à 2 mois de conflit. Alors que le cessez-le-feu entre les belligérants doit prendre fin demain, Trump a annoncé envoyer dès aujourd'hui une délégation au Pakistan pour une nouvelle salve de négociations avec Téhéran. Celle-ci sera pilotée par le vice-président américain, J.D. Vance, dont on dit que c'était l'un des moins chauds pour lancer ce conflit contre l'Iran, hein. Quelqu'un qui se serait même opposé, enfin opposé, qui aurait pris la parole et qui a dit à Trump que c'était une très mauvaise idée. Donc c'est intéressant de voir que c'est lui qui est chargé des négociations. Celle-ci sera pilotée par le vice-président américain J.D. Vance, flanqué de ses deux émissaires habituels de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner. Dans la foulée, le président américain a menacé à nouveau de détruire toutes les centrales électriques iraniennes et tous les ponts en Iran. Alors c'est une menace qu'il a déjà brandie, hein, le fameux ultimatum qu'il a repoussé à plusieurs reprises. Donc Trump recommence, il menace à nouveau de détruire toutes les centrales électriques iraniennes. Tous les ponts en Iran en cas d'échec des négociations. Fini de jouer les gentils. A-t-il déclaré en lettres capitales, toujours quand c'est important pour Trump, il met des grosses lettres. Si c'est des mots importants, pour que tout le monde comprenne, il met des grosses lettres, il met des capitales, toujours. Voilà. Fini de jouer les gentils. Le mec a lancé une guerre contre l'Iran il y a 2 mois. Il dit, attention, hein, si vous continuez... Je vais plus être gentil. Il fatigue, lui, hein. Dimanche soir, l'Iran n'avait pas confirmé qu'il participerait à de nouvelles négociations. Le dialogue est donc au point mort. Et l'étroit d'Ormuz n'est resté ouvert que quelques heures avant que les autorités iraniennes annoncent reprendre samedi le strict contrôle de ce passage où transitait avant la guerre 20% du pétrole mondial. Je vous rappelle les épisodes précédents. Conséquence du conflit, l'Iran ferme pour une grande partie le détroit d'Ormuz, par lequel transite une partie importante du trafic du pétrole mondial. Et en représailles, Trump a dit, si tu fermes, moi aussi je ferme. Hein? Il n'y a pas de raison que certains bateaux, notamment iraniens, passent. Donc, tu veux bloquer? Moi aussi je peux bloquer. On en est là. Pourtant, vendredi, le ministre des Affaires étrangères iranien avait annoncé sur Internet que le détroit resterait entièrement ouvert pour la durée restant du cessez-le-feu. Finalement, non. Saluant la décision mais refusant de lever son blocus des ports iraniens jusqu'à la signature d'un accord avec l'Iran, Trump a provoqué la colère de Téhéran qui a de nouveau bloqué le détroit en représailles. Alors, au début, t'as l'Iran qui bloque, t'as Trump qui surbloque, et du coup, pendant le cessez-le-feu, ça devait reprendre, et du coup, Téhéran a rebloqué. Si vous ne suivez pas, c'est normal. Depuis lors, les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Confirmant l'escalade, les gardiens de la Révolution, donc iraniens, ont averti que tout navire s'en approchant serait pris pour cible par Téhéran. D'ailleurs, je crois qu'un navire français, enfin d'un armateur français CMA-CGM, a été menacé. Peu après, au moins trois navires commerciaux qui tentaient de franchir le détroit ont essuyé des tirs de la part des forces iraniennes. Parmi eux, deux navires battant pavillon indien. Voilà. Et je crois qu'il y a un navire français qui a été menacé aussi. Parallèlement, le guide suprême, Mortaba Ramenei, donc le fils d'Ali Ramenei, l'ancien guide de la révolution islamique qui a été tué dans les premiers bombardements. Donc Mortaba Ramenei, dont on ignore le réel état de santé parce qu'on ne l'a jamais vu en public depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Donc il y a plein de rumeurs sur lui. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est grièvement blessé? On ne sait pas. A publié un message menaçant affirmant que la vaillante marine iranienne se tenait prête à infliger de nouvelles défaites cuisantes à ses ennemis. Donc 2 mois après le début du conflit, on en est là. Ainsi, de rebondissement en rebondissement, le bras de fer se poursuit entre Trump et le régime en place à Téhéran alors que le conflit est entré dans sa 8e semaine. L'Iran et les États-Unis ont tous les deux la volonté de poursuivre les négociations en vue de mettre fin à la guerre, a cependant tempéré le ministre turc des Affaires étrangères. Alors ça se voit pas, hein? Qui veulent faire la paix, mais bon. Et le président du Parlement iranien a déclaré, des progrès ont été effectués dans ces négociations, mais la distance entre nous reste importante. Voilà. Notamment sur les droits de l'Iran dans le domaine du nucléaire, d'après ce que j'ai lu ce matin, l'Iran pourrait être OK pour abandonner ses ambitions en matière de nucléaire militaire. À condition qu'on leur laisse développer leur nucléaire civil. Sauf que le développement du programme militaire nucléaire iranien s'est toujours fait sous couvert, disent tous les spécialistes du sujet, d'un développement d'un programme civil. Donc on n'est pas plus avancé, mais bon. L'Iran a reçu une nouvelle proposition des États-Unis en vue de discussion. Pour mettre fin à la guerre, a annoncé le Conseil suprême de sécurité nationale iranien, tout en disant que de leur côté, ils ne feraient aucun compromis. Voilà. Bon. Reprise des négociations aujourd'hui lundi. Demain, fin du cessez-le-feu. Celui qui ou celle qui vous dit je sais quand ça va se terminer cette histoire, il vous ment, hein, on ne sait pas. Ça va se terminer, ça va peut-être se terminer demain, mercredi. Dans une semaine, dans 15 jours, dans 10 ans, on ne sait pas. Voilà. À moins que quelqu'un dans le chat sache, auquel cas ça m'intéresse. Jamais. C'est compliqué. Alors si ça dure, par contre, politiquement pour Trump, ça va être compliqué. Comme il a quand même été élu parmi ses promesses d'élection, il y a je fais pas la guerre. Je suis pas un président qui envoie des soldats américains sur des théâtres de guerre étrangers. Ça, c'est pas bon. C'est aussi un président qui a été élu sur une promesse de baisse de l'inflation et avec un prix du carburant à la pompe qui augmente aux États-Unis. Ça, c'est pas très bon non plus. Tout ça à quelques mois des élections de mi-mandat, de mi-term. Voilà. Effectivement, il y a MMG qui dit, je crois que ça commence à coûter pour Netanyahou. Ouais, il y a quelques papiers qui commencent à dire qu'en Israël aussi. Ça commence à crier, ouais. Mais quand les États-Unis seront partis, ça risque de continuer quand même. Ah, tu veux dire?
Bah.
Ça dépend de quoi on parle. Alors que si les États-Unis s'en vont, que le régime islamique iranien demeure, oui. Puisque à supposer que c'était un objectif de guerre de Trump et Netanyahou, le régime islamique est toujours en place. Est-ce que l'Iran va continuer à taper contre les pays du Golfe? Bah ça, c'était une conséquence du conflit. Je vois pas pourquoi l'Iran continuera. Enfin, il n'a pas forcément intérêt à continuer à taper sur les pays du Golfe une fois que les Américains sont partis. Est-ce qu'ils vont continuer à bloquer le détroit d'Ormuz? Ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils pouvaient mettre en place un genre de péage sur le détroit d'Ormuz. Ouais. Alors qu'avant, le passage était libre et gratuit. Ça, c'est intéressant. Un risque qu'en cas de mauvais midterm pour Trump, il tente une sorte de putsch, étant donné que la constitution américaine n'est déjà plus respectée, dit YouTube. Alors, dans un monde normal, je te dirais, bah non, quand même. Non, bah non, non. Bah, c'est une démocratie. Non, non, un putsch. Mais le problème, c'est qu'on est aux États-Unis, dans un pays où on a un président qui n'a pas voulu reconnaître sa défaite à la présidentielle précédente, contre Biden, qui a laissé ses partisans marcher sur le Capitole, qui dit régulièrement en blaguant, oh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'élections aux États-Unis? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'élections de midterm? Une blague que je trouve pas très très drôle dans une démocratie. Donc, ton interrogation, pour toutes ces raisons, elle est un peu pertinente quand même. Ouais. Voilà. Dans ce cas-là, on le rebaptiserait Donald W. Putsch. Joli. Allez, je vous emmène en France. Alors, pour des nouvelles pas plus réjouissantes, mais ça me semble important d'en parler. Vous allez comprendre pourquoi. Et on va en parler aussi avec nos amis de YouTube. Amis de YouTube, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est dans la matinée Étienne sur Twitch. Ce lundi 20 avril. On est tombé du lit. On a lancé la revue de presse à 6h15 ce matin. Et dans cette revue de presse, avec un sommaire, vous voyez, où il y a plein, 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 plein d'actu, on vient de se parler du Liban et de l'Iran, il y a une actu en France dont on voulait vous parler. On voulait vous parler de ces jeunes tueurs, de ces tueurs mineurs à Marseille sur fond de narcotrafic. Il y a un papier dans Le Monde, et je voulais vous le lire ce matin. Pourquoi? Parce que vous êtes sûrement au courant qu'il y a eu des affaires criminelles qui ont impliqué des jeunes, des mineurs, des ados à Marseille. Mais je ne m'attendais pas à ces chiffres. Et quand j'ai découvert cet article, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle, parce qu'il se passe quand même un truc qui n'est pas un épiphénomène, qui est un phénomène. À Marseille, les mineurs sicaires, donc sicaires sont des tueurs, hein, du narcotrafic, le chiffre est fou, une cinquantaine d'ados sont mis en examen à Marseille pour meurtre ou tentative de meurtre. C'est pas un ado, c'est pas deux ados, c'est pas trois ados. Voilà. C'est pas des cas isolés. On parle d'une cinquantaine de mineurs, d'adolescents mis en examen actuellement à Marseille pour meurtre ou tentative de meurtre. Et on suppose qu'il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas visés par des enquêtes et des mises en examen. Alors là, je me suis dit, il faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe à Marseille, quoi. Let's go. Kevin, prénom modifié, est un adolescent sans histoire, respectueux de la consigne que lui imposent ses parents de rentrer chaque soir à 18h, ce collégien en classe de 3e est totalement inconnu de la police et de la justice, même s'il a l'air d'une déscolarisation prolongée n'a pas été prise en compte. Un jour des vacances de février, dernier, hein, on le retrouve dans une cité des quartiers nord de Marseille, située à 5 minutes en bus de son domicile, une arme à la main, appuyant sur la queue de détente, en visant un homme à 2 mètres de distance. Kevin ne sait pas se servir de son arme, le pistolet sans rail, la victime le désarme, le roue de coups. Kevin a fêté ses 15 ans un mois et demi plus tôt. Il vient d'avoir 15 ans. Mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, il a été condamné le 9 avril à 9 ans de prison pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs. Quelqu'un me disait tout à l'heure, Alexis demandait dans le chat, est-ce qu'ils peuvent recevoir des grosses peines? Donc là, ce collégien de 15 ans a été jugé pour tentative d'assassinat, hein, son pistolet n'a pas marché, il a pris 9 ans. 9 ans de prison pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs. Le tribunal pour enfants a également prononcé une interdiction de détention d'armes pendant 7 ans et une mesure éducative, selon son avocat Baptiste Buff. Le tribunal pour enfants a estimé que son jeune client a été instrumentalisé et téléguidé, salut Drakeos, et téléguidé de bout en bout, même s'il n'avait jamais renoncé au projet criminel. Kevin est l'un des 47 mineurs mis en examen dans une affaire d'assassinat ou tentative recensée au 31 décembre 2025 par parquet de Marseille, ce qui ne signifie pas qu'ils sont tous auteurs de tir, mais qu'ils composaient à tout le moins une bande criminelle organisée. 47, le phénomène de ces tout jeunes tueurs à gages auxquels on met pour la première fois une arme, parfois un fusil d'assaut entre les mains, a connu une augmentation vertigineuse. C'est-à-dire que 47, c'est à la fois peu et beaucoup, c'est-à-dire par rapport à la population marseillaise, 47 personnes, c'est pas... Mais c'est énorme, en même temps. Voilà. C'est-à-dire que tu te promènes à Marseille, tu vois un ado, le gars est collégien, bah c'est peut-être un tueur. Et là, tu bugs, tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas, quoi. Pour les mêmes incriminations criminelles, il n'était que 4 mises en examen en 2020, par exemple. Aucun en 2021 et 2022, et là, on est à 47. Donc là, il y a un phénomène, il y a un truc qui s'est passé. 4 ou 5 jours avant les faits, sur Snapchat, Kevin, l'ado dont on parlait tout à l'heure, était entré en contact avec El Diablo, qui lui avait demandé de télécharger la messagerie cryptée Signal. Sur celle-ci, El Diablo, donc c'est son correspondant, et un autre interlocuteur surnommé HTTS le recrute. Interrogé par le juge d'instruction, vous avez 15 ans, des inconnus vous demandent d'aller tuer quelqu'un, et vous dites oui. La réponse de Kevin tombe, ils m'ont dit 15 000 euros. De l'argent que l'adolescent destinait à sa mère, la commande était sans détour, tu mets une balle dans le ventre et après tu pars. Ajoutant, on va te faire une première mission, si tu es carré, on te donnera d'autres missions. Voilà. Les enquêteurs ont reconstitué le contrat passé, le périple de Kevin, attendu par un homme cagoulé dans la cité où sont déroulés les faits, guidé jusque dans un bar pour repérer la cible, un homme aux cheveux longs avec une veste sans manches. Il m'a montré qui je devais tuer, il m'a dit c'est lui, l'homme cagoulé, l'équipe d'un Glock. Alors l'ado, il dit un cloc, parce que manifestement il est pas bien au courant, quoi. Donc je suppose qu'il parle d'un Glock. L'homme cagoulé explique le jeune garçon l'équipe d'un cloc, comme ils ont les policiers, donc c'est bien un Glock, dit l'adolescent pour décrire l'arme récupérée dans un sac poubelle caché dans le compteur électrique d'un sous-sol. Après que le tir a échoué, Kevin est jeté au sol, frappé avec la crosse de son arme. En sang, il entend la victime et ses amis envisager de le mettre dans un coffre. Mais le patron du bar aurait dit « Non, on appelle la police, c'est un petit. » Et Kevin d'ajouter face aux enquêteurs, de base, il comptait me mettre dans un coffre et après, je sais pas, me tuer. Le garçon dit regretter, même s'il mesure mal les choses. En garde à vue au policier, il griffonne sur un carnet. « Est-ce que si je sors avec un bracelet, pouvez-vous me mettre dans un lycée qui a comme étude l'électricité ?» Et à la fin de l'interrogatoire chez le juge, il redevient un enfant. Est-ce que vous pensez qu'à la fin de mon mandat de dépôt, je pourrais faire une demande de CEF, de centre éducatif fermé ? Le magistrat lui opposant qu'envisager sa libération est prématuré, l'adolescent lâche, résigné. D'accord, de toute façon, je vais à l'école et je suis sage. Waouh. Après 14 mois de détention provisoire, des éducateurs notent que le garçon, toujours soutenu par sa famille, aurait commencé à prendre conscience de la gravité des faits. Si la transformation de Kevin en tueur à gages a des allures de coup de tonnerre dans un ciel tout bleu pour Théo, donc ça c'est un autre jeune homme, prénom également modifié, cela s'apparente plus à la chronique de mort annoncée. Mowgli, son surnom à cause de ses longs cheveux, a 16 ans, lorsque le 11 novembre 2023, sur le parking d'un McDo des quartiers nord de Marseille, il vide le chargeur d'une Kalachnikov sur un véhicule. 16 ans. Tuant 2 des 5 passagers, dont une jeune fille âgée de 25 ans, sans aucun lien avec le trafic de drogue. Originaire du sud-ouest, Mowgli déballe immédiatement tout en garde à vue un an plus tard en octobre 2024. Je suis le tireur de cette affaire. J'étais accompagné de Y, le commanditaire de ce commando, et l'animal, tout comme son camarade âgé lui de 17 ans, conducteur lors des assassinats, surnommé Sicar 13. Mowgli est sous la coupe d'un homme surnommé l'animal, le rôtisseur. Les consignes reçues, tue un garçon. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai essayé de demander pourquoi faire ça, ils m'ont dit que je n'avais pas besoin de savoir. De base, on m'avait dit qu'il y avait deux garçons et qu'il fallait les abattre. Après, on m'a dit qu'il y avait des filles dans la voiture. Et ZZ, donc l'un de ses interlocuteurs, il m'a dit de tirer sur tout le monde. Les deux ados étaient pilotés sur les réseaux sociaux via un premier groupe Signal baptisé Mission, sur lequel l'animal passait les consignes, et un second intitulé Convoi sur Snapchat, sur lequel les enquêteurs pensent avoir identifié les figures de la DZ Mafia, donc ZZ. Une amie des deux jeunes qui les avait logés avant ces assassinats, à leur retour de Lorient, ils venaient de Lorient. Je crois qu'on a vu que l'eau tout à l'heure venait du sud-ouest, c'est ça? C'est pas forcément des gens de Marseille. C'est pas forcément des gens de Marseille. Ils peuvent être recrutés n'importe où, hein. Une amie des deux jeunes qui les avait logés avant ces assassinats à leur retour de Lorient, où ils avaient été dépêchés pour reprendre un terrain, ou alors à moins qu'ils ont été envoyés dans une première mission de Marseille à Lorient. C'est pas très clair. Les décrit comme fascinés par l'animal, Mowgli était vraiment matrixé par lui. Dès que l'animal mettait une story, il la republiait, il mettait toujours des films sur le cartel de Jalisco, nouvelle génération, organisation criminelle mexicaine. Pour semer la mort, on nous avait dit 10 000 chacun, le prix d'un mort. Au final, on a eu 3 000 à partager en deux et l'animal a récupéré le reste. Ce garçon qui dit aux policiers « Mon papa est mort quand j'avais 9 ans » avait alerté la justice des mineurs avant qu'ils ne commettent ces assassinats. Des mesures éducatives, un placement en foyer, lui avaient été imposés pour des violences commises sur sa mère, jusqu'à son interpellation un an après les assassinats commis à Marseille. Sa participation à des réseaux de stupéfiants le conduiront à des placements en établissement pénitentiaire pour mineurs, et puis en centre éducatif fermé. Contrairement au premier garçon de 15 ans, tout à l'heure, celui-ci avait déjà un parcours judiciaire. Cet extrême rajeunissement se traduit dans les chiffres du parquet de Marseille. Sur les 166 mineurs mis en examen dans les dossiers de criminalité organisée, soit des faits de meurtre, mais également d'extorsion, parce que là on parle de meurtre ou de tentative de meurtre, mais il y a plein d'autres choses, hein. Là, on parle de 47 mineurs mis en examen à Marseille pour des assassinats ou tentatives d'assassinat, mais on a 166 mineurs mis en examen dans les dossiers de criminalité organisée. Donc meurtre, mais aussi extorsion, séquestration, association de malfaiteurs criminels. 36 ont moins de 16 ans. Phénomène qui a explosé en 2023 avec la guerre entre la DZ Mafia et Yoda, un autre clan de trafic de stupéfiants. Sur les 47 mineurs mis en examen dans un dossier d'assassinat ou de tentative, 4 ont 14 ans, 10 ont 15 ans, 15 ont 16 ans, 18 ont 17 ans. L'explosion de l'implication de très jeunes garçons dans des affaires gravissimes a conduit à la spécialisation de deux juges des enfants pour juger ces dossiers de plusieurs tomes, sans commune mesure avec ceux que les magistrats traitent habituellement avec leur double casquette, répression et éducation. Quelqu'un me disait tout à l'heure, très justement, je reprends, c'est brutal, c'est pas tant les jeux vidéo que la glorification de l'argent roi. Il est évident que les jeux vidéo n'ont rien à voir avec tout ça. Contrairement à ce que des politiques populistes aimeraient nous faire croire parfois. Mais l'argent, oui. L'argent apparaît comme un puissant moteur à leur basculement dans la grande criminalité. Analyse-t-on au parquet, dit Le Monde, qui observe aussi que les groupes criminels leur apportent un sentiment d'appartenance à un contre-pouvoir, à une contre-société. La plupart vivent dans une famille composée de la seule mère et de frères et sœurs, et leur mère fait souvent ce qu'elle peut, analyse-t-on au parquet. Ils ont un vrai sentiment d'abandon, vivent dans des habitations à l'abandon, elles aussi. Et comme dans le quartier de la Castellane, ils voient que seul le réseau décore la cité pour Noël ou à Carpentras, dans le Vaucluse, offre des fournitures scolaires à la rentrée des classes. Amer constat d'un magistrat chargé de la lutte contre le crime organisé, pour qui il ne faut pas accepter l'échec, car si on laisse l'espace vide, eux le rempliront, eux ce sont les narcotrafiquants. L'hyperviolence n'est pas seulement liée à la criminalité organisée. Le 3 mars, un ado de 15 ans a été condamné pour meurtre à 12 ans de réclusion pour un coup de couteau mortel porté à la gorge d'une victime du même âge. Les deux étaient inconnus de la justice, sans aucun lien avec les stupéfiants. Tout cela parce qu'une jeune fille aurait rapporté que la victime avait dit qu'elle niquait sa mère. C'est l'autre fléau des mineurs, c'est l'ultra-violence dans la rue. Déplore Céline Regnault, qui est procureure adjointe chargée de la section mineurs-famille. On se donne rendez-vous pour en découdre avec un couteau dans la poche. Hier, les mineurs commettaient des vols qui sont désormais des vols avec violence, des refus d'obtempérer qui sont maintenant accompagnés de mises en danger, ou des vols à la sortie du lycée qui se commettent maintenant avec une arme. Aujourd'hui, toute la délinquance des mineurs est marquée par une aggravation de la violence. Papier de Luc Leroux dans Le Monde. Alors, le papier est assez long, hein, il fait une pleine page, mais il ne fait qu'effleurer les raisons de ce phénomène, sur lequel il y a quelques pistes quand même à la fin de l'article. Mais le phénomène en lui-même, il est quand même inquiétant et dramatique. Voilà, on a 47 ados à Marseille mis en examen pour meurtre ou tentative de meurtre. Voilà. C'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir, bien sûr. Je vous lis un petit peu et on enchaîne. Source sur l'augmentation de la violence, me demande quelqu'un dans le chat, la procureure adjointe chargée de la section mineure famille. A priori, elle a les chiffres. Alors, si tu penses. Alors, je sais que parfois certains médias veulent mettre en scène une supposée augmentation de la violence pour nous faire un peu flipper. Là, pour le coup, à Marseille, sur le narcotrafic, c'est compliqué à démentir, quoi. Je vis juste à côté de Marseille, me dit Kouakou et Aix. Le procès de la DZ Mafia est en cours avec des énormes convois de police, snipers sur les toits, etc. C'est impressionnant. Bon, en tout cas, quand on voit ce phénomène, et qu'il ne semble pas que des mesures aient été prises pour lutter contre les causes de fond de ce phénomène. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on parle de ce phénomène. Voilà. Alors le narcotrafic, on en parle régulièrement ici, hein, et de ce qu'on pourrait éventuellement faire pour mettre fin à ça, mais on en reparlera sûrement. Et d'ailleurs, on va continuer à parler de ce sujet, du narcotrafic, avec le sujet suivant, avec une question volontairement un peu provocante. Voilà. Amis de YouTube, je vous garde avec nous pour ce deuxième sujet parce que c'est lié et c'est intéressant. Et si vous consommez vous-même, par exemple, du cannabis ou de l'herbe, elle va vous parler cette question. Voici la question. Si je fume un joint, ai-je ou non du sang sur les mains? C'est un sujet qu'on a déjà abordé. Vous savez que c'est notamment le discours des autorités en France, hein, qui a été répété à plusieurs reprises. Les consommateurs sont responsables, voilà. Sont au moins pour partie responsables de la violence qui entoure le narcotrafic. Hein, c'est l'équation. Bah, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Hein, si vous ne consommez pas de drogue, il n'y a pas de trafiquant. Et s'il n'y a pas de trafiquant, il n'y a pas de violence, etc. Alors oui et non. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être un peu subtil sur le sujet. Hein. Et on a déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises, mais je trouve que ce papier du Monde est éclairant. Voilà. Comme le dit Benchki, mais MDR, la réduction de simplet. Exactement, c'est un petit peu simplet. Si je fume un joint, ai-je du sang sur les mains? Une campagne ministérielle, il y a une actualité, c'est qu'il y a une campagne ministérielle publique de culpabilisation des consommateurs de drogue qui incite sur leur responsabilité dans les violences liées au narcotrafic. Mais les autorités pourraient s'interroger également sur leur propre rôle, estime Pascal Richer. Lisons ce papier. Au calme, tu roules un bon gros tarpé en fredonnant Easy Skanking de Bob Marley quand tout à coup surgit sur ton écran un spot du ministère de l'Intérieur, image en noir et blanc, bourdonnement grave en guise de fond musical. Dans une cité du genre Nouvelle-France, un caïd barbu assis, jambes écartées, beau spécimen de manspreader, recrute un enfant encapuché comme guetteur, il le menace et si tu trahis, gros plan sur un flingue, la leçon du spot apparaît, tu consommes, tu cautionnes. Il existe ce spot? Il existe ce spot? Tu quoi? Tu consommes? Ah ouais, je l'ai. Ok, je l'ai. Donc c'est un spot gouvernemental.
On m'a dit que t'avais besoin de cash, c'est ça?
Pour aider ma mère. Elle est toute seule et j'aimerais bien lui acheter une maison.
Tu connais le job?
Pas trop, je sais que je dois crier si je vois les Condés.
Les Condés, mec, on les voit pas toujours. Tu vas devoir prendre toutes les plaques d'IMAT. Tu vas devoir les traquer constamment. Et si tu vois rentrer une seule de ces voitures dans le quartier, tu dois crier à la seconde. Compris?
Compris.
Il y a aussi les autres gars, les autres gangs, qui veulent piquer notre bise. Tu dois avoir les yeux partout. Tout le temps. T'as capté?
Ok, ça me va. Mais si jamais je me fais arrêter.
Tu risques rien. T'es trop jeune. Et c'est bien pour ça qu'on te recrute. Et si tu trahis?
Waouh! D'abord, je voudrais saluer le jeu d'acteur, hein. Le jeu d'acteur du dealer là, qui est assez impressionnant. Blague à part, c'est donc le spot dont le monde parle. Voilà, je vous remets l'article. Ici. Tu consommes, tu cautionnes. Bah, la question c'est est-ce que c'est aussi simple? Bon, ou plutôt beuh, écrit le monde, ça te gâche un peu ton plaisir, cette affaire-là. Es-tu vraiment responsable, toi qui viens de te rouler un petit 3 feuilles ou 4 feuilles ou 5 feuilles, que sais-je? Sur ton divan, es-tu vraiment responsable du narcotrafic et des violences qui l'accompagnent? C'est ça la question. As-tu du sang sur les mains, comme l'a trompété Bruno Retailleau quand il régnait place Beauvau, quand il était ministre de l'Intérieur, Retailleau dont on va parler juste après d'ailleurs, puisqu'il est candidat de LR à la présidentielle. En novembre 2025, après la mort du jeune Mehdi Kessassi, tué par balle parce que son frère, le militant écologiste Amine Kessassi, est engagé dans la lutte contre le narco-banditisme, le président Macron lui-même avait estimé qu'acheter de la cocaïne ou du cannabis, c'est de fait être complice et donner du financement à des réseaux de criminalité organisée. Ont-ils raison? La réponse n'est pas simple, écrit le journal. On peut déjà distinguer deux situations, celle des toxicomanes et celle des non-addicts. Car si les êtres humains doivent assumer la responsabilité de leurs actes, encore faut-il qu'ils aient la capacité de faire des choix. Or, avec la drogue, le libre arbitre peut être empêché par l'addiction. Les soignants qui travaillent quotidiennement avec des consommateurs le constatent tous, les drogués sont avant tout des victimes d'une pathologie. Et il est contre-productif de chercher à les culpabiliser. Le gouvernement lui-même envoie des messages contradictoires pendant que le ministère de l'Intérieur accuse les consommateurs de complicité avec le grand banditisme. Vous avez vu le clip comme moi à l'instant. La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives explique, elle, sur son site, que d'un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences délétères, une maladie du cerveau donc, peut-on être responsable? Pardon, un petit message de ma famille. De bon matin. Peut-on être responsable quand une telle maladie bloque le discernement? Selon le psychologue Jean-Pierre Coutron, spécialiste des addictions, la véritable cause de la violence du narcotrafic vient en réalité des autorités. Celle-là même qui montre du doigt ces toxicomanes, c'est la prohibition. Les consommateurs, eux, n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers le marché abandonné aux mafias, hein, puisque ce marché n'est pas encadré ou légalisé ou dépénalisé. C'est la prohibition. Les consommateurs n'ont donc pas d'autre choix que de se tourner vers le marché abandonné aux mafias, estime-t-il, dans le cas d'autres addictions, celles des jeux de hasard et d'argent. Hein, les autorités ont prévu un accès contrôlé, casino ou buraliste. S'il est injuste d'accuser les personnes dépendantes, quid des autres? De ceux qu'Emmanuel Macron décrit comme les bourgeois des centres-villes qui fument en rentrant du travail, comme si les femmes et les hommes qui sont issus des classes populaires ne pouvaient pas tourner un joint, mais passons. Ces consommateurs occasionnels ne peuvent-ils pas, eux, ceux qui ne sont pas dans une logique d'addiction, donc, ces consommateurs occasionnels ne peuvent-ils pas, eux, résister au désir de fumer? À cette objection, Jean-Pierre Coutron répond qu'en s'étonnant du deux poids deux mesures dans ce débat, pourquoi n'accuse-t-on pas les buveurs de vin de financer un secteur qui tue chaque année des dizaines de milliers de personnes, notamment sur les routes? De même, reproche-t-on aux détenteurs de smartphones, c'est-à-dire vous et moi, d'être complices de l'extraction violente des minerais de sang, comme le coltan en République démocratique du Congo? S'ils devaient débattre de l'autre dilemme, les grands philosophes de l'éthique se disputeraient probablement, les déontologistes, ceux qui proposent de fonder nos actions sur des principes moraux, se rangeraient sans doute du côté des autorités. L'article cite Emmanuel Kant, j'adore cet article. Le premier d'entre eux, Emmanuel Kant, qui considérait que toute action devait être conforme à une conduite qu'on souhaiterait universelle, condamnerait la drogue en général. À son époque, il jugeait immoral la masturbation. Pourquoi ça parle de masturbation tout de suite, là? Ok. Bref, c'est ne vous, d'après Kant, ne vous masturbez pas. C'est ce que je comprends. Voilà. Le journaliste s'est fait plaisir. Donc ça, c'est du côté de la pensée de Kant, quoi. Une autre écurie, les éthiciens de la vertu, se demanderaient si Jésus ou Socrate se drogueraient. Pas sûr qu'ils se mettraient d'accord. Enfin, derrière Jérémy Bentham, les utilitaristes pèseraient les conséquences concrètes de l'acte de se droguer. D'un côté, il conduit indubitablement à un certain bien-être pour les usagers. De l'autre, il finance un système tissé de violence et de souffrance, mais dans une proportion infime. Le renoncement individuel, constaterait-il, aurait zéro impact sur ce système. Pour que ça fonctionne, il faudrait un mouvement collectif coordonné du type « boycottons l'herbe tachée de sang ». Ce qui n'est pas près d'arriver. Si un mouvement collectif se levait pour lutter contre les organisations criminelles, pour être efficace, il choisirait plutôt la voie politique et exigerait la légalisation du cannabis, analyse le philosophe Martin Gibert, chercheur à Montréal. Pour Patrick Farreau, sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur d'une philosophie pratique de la drogue, la suggestion d'une causalité entre le consommateur, c'est ça la question, et la violence du narcotrafic ne tient pas la route. C'est faux en termes de logique, car l'une n'implique pas l'autre. La violence du narcotrafic a bien d'autres causes, comme l'interdiction. Moralement, il n'y a pas de responsabilité directe ou indirecte dans la violence en question. Le seul lien est d'ordre économique. Il ne suffit pas de constater un lien entre l'offre et la demande pour se débarrasser d'un désir de consommation. Il ajoute, plutôt que de culpabiliser le consommateur, et notamment celui qui est addict, il serait préférable d'utiliser de bons arguments, par exemple la santé physique ou l'intégrité mentale, plutôt que de traiter les consommateurs comme des imbéciles moraux. Après avoir lu cette chronique, tu décides de jeter ta weed aux toilettes, dit le journaliste, tu tires la chasse, un autre spot TV plus ancien te revient en mémoire, la drogue c'est de la merde. Pas mal cet article. Bon, si je suis élu en 2027... Parmi mes premières mesures, il y aura le lancement d'une grande réflexion. Voilà. Alors, je créerai une commission, vous ne moquez pas. Hein. Une commission ou bien un truc avec des Français, là, comme on dit. Là, le truc que Macron il a fait plusieurs fois, là, qu'on n'écoute jamais après. Non, pas sur la masturbation. Non. Le grand débat, ouais, mais la convention. Convention citoyenne. Je crée... Une grande convention citoyenne, voilà. En même temps qu'une commission sur le sujet, voilà. Et je demande à ces gens de se pencher sur tous les exemples étrangers où il y a eu dépénalisation. Pardon, où il y a eu légalisation. Voilà. Avec cette proposition, voyons ce qui s'est passé aux États-Unis, voyons ce qui s'est passé en Espagne, voyons ce qui s'est passé dans plein de pays, voilà. Et voyons si ça a marché et voyons si ça peut être reproduit en France avec un encadrement étatique comme les paris d'argent sont encadrés, comme la vente d'alcool est encadrée, comme la vente de cigarettes est encadrée. Voilà. Et on légalise et on encadre et on taxe, ça fait des sous. Voilà. Et on essaye de diminuer le narcotrafic comme ça. Voilà, ça ce serait une de mes premières propales. J'ai pas tellement envie de me présenter à la présidentielle, mais rien que pour porter cette proposition, parfois je suis tenté. Non, on va pas taxer la masturbation, les gars. Quoique ça pourrait rapporter vachement de thunes, en vrai. Et si tu me donnes une idée là, il y a moyen de renflouer les caisses de l'État avec ça. Ouais, non, restons sur la drogue. 20%? 20% sur la... Waouh. Après, peut-on vraiment se comparer à d'autres pays? Les mentalités en France sont quand même particulières. Ben, c'est pour ça que la première mission de cette commission serait de réfléchir au fait de savoir si c'est duplicable chez nous, quoi. Eh oui. Est-ce que je pourrais ministre des drogues, dit Patator. Bah, je sais pas, on verra. Ascalpin dit, je suis désolé, mais la consommation dépénalisée à 18 ans est une connerie sans nom. Comparer l'effet du cannabis à celui de l'alcool est vraiment pas logique. Tu as raison, l'alcool c'est beaucoup plus dangereux. Effectivement. Je pense que c'était pas la question d'Ascalpin, mais c'est ma réponse. Et au-delà de l'argent, le meilleur, Ibo nous dit, argument pour la légalisation, c'est la santé publique, les produits de coupe et la merde qu'ils mettent renforcent la dangerosité. Mais le premier degré, c'est un sujet sur lequel il va falloir avancer en France. À l'instant, on se demandait, mais comment on met fin à ça? Comment on met fin au fait que, à Marseille, il y a des mineurs qui sont mis en examen, 47 précisément, pour tentative d'assassinat ou assassinat? Bah, si on ne se penche pas sur le fond de l'affaire, ça va continuer ça. Voilà. Donc peut-être que c'est une piste quand même. Ah non, il va falloir finir arrêter d'opposer la drogue criminelle et l'alcool, le terroir. Oui, il est tôt ce matin à la revue de presse que j'ai rendez-vous à 10 h. Voilà. C'est une piste à suivre. Ah! 2027. Bon, amis de YouTube, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, on est tous les matins en direct sur Twitch. Alors, normalement, c'est 9 h midi, hein, 10 h, 13 h. Là, ce matin, on a fait un 6 h, 9 h exceptionnellement. Mais voilà, on est là tous les matins. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de vacances ici. C'est quand vous voulez. En tout cas, merci. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker et à follow cette chaîne YouTube qui est en train d'exploser, mesdames et messieurs. Je suis en train de devenir YouTuber, sans faire exprès. Et c'est tant mieux. À l'instant, on parlait de Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, qui a un discours un peu martial contre la drogue. Et bien justement, monsieur Retailleau, il veut être président de la République. Voilà. Et il vient d'être désigné candidat par son parti. Voilà. Alors, merci Kiki. Oh, je remercie pas trop les subs ce matin. Merci Kiki Plan, merci Florian, merci Lemmings, merci AD871, merci Florent, merci Mamie Zestouille, merci Luc85, merci la petite Mimi TV, merci Cyriano, je remercie personne. Et alors, sans faire mauvais esprit, sur le papier, il y a peu de chances que Bruno Retailleau soit élu président de la République. Aujourd'hui, alors à un an avant la présidentielle, ça veut rien dire ce que je dis, hein. Une présidentielle, ça joue dans les dernières semaines, dans les derniers mois, sûrement pas un an avant, c'est sûr. Malgré tout, ça va être chaud. Alors, ce matin, j'ai hésité à vous en parler de Bruno Retailleau, mais je me suis dit, si j'en parle pas aujourd'hui, peut-être que j'en parlerai jamais, quoi. Peut-être que j'en parlerai jamais. Donc, parlons-en. Bruno Retailleau, désigné candidat de LR à la présidentielle, le plus dur commence. Le président des Républicains a été largement désigné dimanche, c'est frais, hein, mon actu elle est fraîche, candidat officiel des LR à l'Élysée. Le chemin à parcourir reste immense toutefois pour rattraper Édouard Philippe, son principal rival à droite. Je vous lis en même temps. Il aura dû mettre Valérie debout, je l'ai. Comme on s'est levé très tôt ce matin. On l'a. Maintenant, c'est Retailleau qui dit debout. Othmane Nasrou, secrétaire général des LR, avait prévenu qu'il n'y aura pas d'énormes feux d'artifice en cas de désignation de Retailleau dimanche comme candidat officiel du parti à la présidentielle. Ainsi, c'est par un simple communiqué de presse, waouh, que LR a annoncé hier soir que son président a été adoubé par les adhérents avec 73,8% des voix. Autour du sénateur vendéen, pas question de gonfler le torse pour un sac considéré comme acquis d'avance. Aucun triomphalisme. Retailleau était déjà le candidat naturel de LR. Les choses sérieuses commencent maintenant. Le défi est immense, affirme Othmane Nasrou alors que l'ancien ministre de l'Intérieur est en position d'outsider un an de la présidentielle. Une façon polie de dire qu'il n'est pas du tout parmi les favoris. Lancé officiellement dans la course à l'Élysée depuis le 12 février, la candidature du champion de LR n'a toujours pas décollé. Selon les enquêtes d'opinion, le sexagénaire reste souvent scotché sous la barre des 10% d'intention de vote, ce qui n'est pas ridicule, hein. Ce qui n'est pas ridicule, c'est pas suffisant, mais c'est pas ridicule. Soit moitié moins qu'Édouard Philippe, son principal rival à droite. L'écart est si grand que de nombreuses voix parient déjà sur un ralliement du Vendéen au Havrais. Tout ça reste très à l'ouest quand même. Bruno Retailleau cherche à faire taire cette petite musique mortifère, promettant que leurs courbes, dont les sondages, se croiseront à l'automne, mais il peine à se faire entendre dans le brouhaha des candidatures. Ses premières propositions économiques n'ont pas marqué les esprits, les prochaines, notamment celles sur la Constitution qu'il souhaite réformer, vont faire du bruit, promet-il, hein, pour tenter de se démarquer le sexagénaire mise... Bon, on a compris qu'il a une soixantaine d'années, ça va aller... C'est quel journal, là ? Les Échos. Oui. Sa courbe va se redresser.
Debout !
Exactement. Donc le sexagénaire mise sur une forme de radicalité raisonnable.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Une forme de radicalité raisonnable. Tu es radical, mais raisonnablement. Tu es rapide, mais un peu lentement. Ok. Tu as un gros appétit, mais tu manges un tout petit peu. Il fait chaud aujourd'hui. Mais assez frais quand même. Persuadé que les héritiers du macronisme et du son en même temps seront hors jeu. Face à Édouard Philippe, il considère être le seul à droite à pouvoir porter un projet de rupture qui va renverser la table. Bon, moi, je ne renverse pas celle-ci parce que j'en ai besoin pour streamer. Le maire du Havre étant coincé sur sa gauche. Édouard Philippe ? Ok. C'est une certaine gauche, alors. S'il marche trop sur nos plates-bandes, Attal va récupérer une partie de son électorat, prolonge un proche. Pour franchir le mur du son et trouver des formules percutantes, bah, moi, j'ai trouvé que radicalité raisonnable, déjà, c'était pas mal. Les équipes de Retailleau vont investir sur la communication et les nouveaux formats numériques. Bon, ça décolle pas trop. On va aller sur TikTok. Je ris. Quand je suis fatigué, je ris bêtement. Oh putain, ça sent tellement bon. Donc, la campagne a du mal à décoller, les sondages aussi. Alors, réponse de l'équipe de campagne. On va investir sur la communication et les nouveaux formats numériques. Monsieur Retailleau, j'ai une strate. Avez-vous déjà entendu parler de TikTok ? Non ? Eh bien, c'est incroyable. Sur TikTok, il y a des jeunes. On va faire des clips. Voilà. Ça va être vu par des millions de personnes. Et ces gens vont voter pour vous. On a toujours été très mauvais sur ce point chez LR, reconnaît son entourage qui souhaite montrer d'autres facettes du président de l'Élysée, avant tout reconnu pour ses prises de position régaliennes. Ça va, on va se régaler. J'attends les clips. Fin mars, Bruno Retailleau s'est ainsi essayé un premier podcast sur France Info. J'étais mauvaise langue, on est sur le podcast. Dont le cadre plus intime est devenu un passage obligé en politique. Le catholique conservateur s'est notamment confié sur son rapport à la Vendée et à sa foi. Et promet un moratoire sur le sociétal pendant son quinquennat, comme l'avait proposé Marine Le Pen en 2022. S'il veut gagner, il faut qu'il comprenne que la Vendée, ce n'est pas la France. Quand on brigue l'Élysée, on ouvre ses chakras et on part à la rencontre de gens différents, regrette un sénateur LR. Surtout, il faut du positif. Attention à ne pas refaire la campagne du sang et des larmes de François Fillon, dont Retailleau était le numéro 2 en 2017. Ah, j'ai oublié ça. Dans ce marathon vers l'Elysée, Bruno Retailleau a conscience que le tampon LR sur sa candidature ne le protégera pas des coups de son propre camp. Indifférent à cette consultation, les notables de chez LR vont continuer à jouer leur partition pour 2027. Voilà. Il a cadenassé l'élection interne, donc le vote ne règle rien, mais ça n'empêchera pas les autres d'avancer. Voilà. C'est pour ça. C'est quoi un moratoire ? Un moratoire, c'est on gèle tout. Pas de nouvelle loi. Xavier Bertrand et David Lisnard font leur petit bout de chemin, mais ils reviendront vers nous en fin d'année, se persuade de son côté un lieutenant de Bruno Retailleau. Évoqué, impossible, c'est devenu human bomb depuis qu'il a perdu l'élection du parti. Son seul objectif est tout détruire, poursuit-il. Ok. Donc les autres appétits présidentiels chez LR, Xavier Bertrand, David Lisnard ou encore Laurent Wauquiez. Alors c'est là où je ne comprends pas. Malgré le plébiscite des adhérents pour son rival... Ah oui, le patron des députés LR, donc c'est Wauquiez, va continuer de militer pour une primaire élargie à droite. Ok. Seule manière à ses yeux d'éviter un second tour Bardella-Mélenchon en 2027. Gérard Larcher, président du Sénat, et Michel Barnier défendent aussi l'idée d'une candidature unique de la droite et du centre. C'est qui le patron des députés LR? C'est qui? C'est Wauquiez? C'est Wauquiez, c'est Wauquiez, c'est bien Wauquiez, c'est bien Wauquiez. Je voulais être sûr. Ok. Officiellement, Bruno Retailleau n'a jamais exclu de participer à une primaire face à Édouard Philippe, qui lui ne veut pas entendre parler. Bah oui, le mec en tête dans les sondages, il n'a aucun intérêt à faire une primaire. Le vrai juge de paix sera la dynamique dans les sondages, on verra à l'automne, mais s'il le faut, il ira, confirme un des proches. En attendant, les deux hommes se ménagent, conscients qu'à un an de l'élection suprême, mieux vaut ne pas insulter l'avenir. De toute façon, à gauche comme à droite, ce constat que sans une unité de candidature, on s'achemine doucement vers un second tour qui serait un second tour Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Bardella, ça semble s'imposer, quoi. Donc c'est le constat qu'on fait, hein, c'est ce qu'on fait, c'est le constat qu'on fait à droite, c'est le constat qu'on commence à faire à gauche aussi, quoi. Après, quelle est la capacité de la droite et de la gauche de s'unir pour un candidat unique? Ça, c'est une autre histoire. Dessène a une autre analyse de la situation à propos de Retailleau et il mobilise sa nuance de droite pour la donner à Bardella au second tour. Waouh! Un scénario où, par exemple, Retailleau est candidat au premier tour, fait, je sais pas, 7%, 8%, 10%, et qu'il appellerait à voter au deuxième tour. Pour Bardella, par exemple, face à, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. En échange, donc ce qui ferait une union, la première union officielle droite, extrême droite, en échange, par exemple, de ministère, c'est un tremblement de terre. Hein, c'est la fusion des droites, quoi. Je vous lis. Non, il y a déjà eu l'UDR. Non, mais l'UDR, c'est l'extrême droite, c'est pas la droite. Tiller. Tiller me dit, mais il y a déjà eu l'UDR. Mais l'UDR, c'est pas la droite, c'est l'extrême droite. Puis ils sont 12, hein. Ils se réunissent dans une cabine téléphonique. Hein. Donc, c'est pas non plus. Hein? C'est un micro-parti. Hein. Quand je dis micro-parti, ça vous fait rire, vous. Hein. Ah. Toujours, toujours. Mais je sais, je sais. Je vous lis. Apple Computer, laissez les Français voter et choisir vraiment. Très joli pseudo. Que veut dire ton message, Apple Computer? Qui ne veut pas laisser les Français voter et choisir ici? Je ne comprends pas. Est-ce que tu penses que ce stream est une entreprise de manipulation de l'opinion pour empêcher... Quel est ton candidat? Parle clairement, Apple Computer. Pour qui veux-tu voter? Que veux-tu nous dire? Salut Drakeos. Mais Retailleau, il est hors circuit, il est hors circuit, j'en peux plus. Oui, justement, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Hein? Je ne parle pas de toi, je parle des politiques qui font des alliances dans tous les sens. Ah, les alliances. Ouais, je comprends, ouais. Et des alliances qui parfois dénaturent le débat politique. Tu as raison. Tu as raison. Oui, Retailleau hors circuit. Oui, il est hors circuit. C'est pour ça qu'on en parle. Parce que imagine dans quelques semaines, dans quelques mois, on se rend compte qu'il est totalement hors circuit. Que malgré le fait qu'il a été désigné candidat de LR à la présidentielle, il est totalement dans les choux, au niveau des sondages, comme des alliances, il n'est pas dans le coup. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines, dans quelques mois? Quand, si on voit que Retailleau est totalement hors du circuit, qu'est-ce qu'on va se dire? On aurait dû lire cet article le 20 avril. Hein? Parce que c'était la seule occasion où on pouvait parler de Retailleau. Vous vous rendez compte? Et là, on va pouvoir se dire dans quelques semaines, quelques mois, eh ben, on en a parlé. Au moins une fois. Quand même. On a coché la case. On a donné sa chance au produit. Mesdames et messieurs. Eh oui. Eh oui. On ne me dira pas que j'ai pas parlé de Retailleau ici. We talked about it, exactement ce qu'est erreur. Vous pourriez dire, comme le dit Claire Denis, j'y étais. Voilà, on a la conscience tranquille. Ça, c'est fait. Hop. Oui. Qu'on ne vienne pas me dire, mais tu n'as jamais parlé de Retailleau, Samuel. 20 avril, 7h56 du matin. Ça, c'est fait. Allez. Si un petit café ne vous réveille pas, ça vous réveille, hein, tout de suite. Allez, on part sur Monsieur Musk, convoqué par la justice française, mesdames et messieurs. Elon Musk. Oh non, pas lui. Oh, si! Oh, si! Convoqué par la justice française aujourd'hui, mesdames et messieurs. Eh oui, on est à fond sur l'actu ici. Spoiler, il ira pas. Oui, bah, tout le monde le sait, Asterius, c'est pas ça l'info. Bien sûr qu'il n'ira pas. La France, pionnière contre la dérive des réseaux sociaux. La Croix profite de cette actu. Musk, convoqué par la justice française, où il ira sans doute pas, pour dire, n'empêche qu'en France, eh bien, on est peut-être à la pointe du combat contre les GAFAM et contre les dérives et les excès des réseaux sociaux. Elon Musk, donc convoqué aujourd'hui, lundi 20 avril, par le parquet de Paris pour une audition libre à laquelle il ne se rendra sûrement pas. Hein? Le milliardaire est soupçonné de se servir de son réseau social X, le réseau du chétan, pour biaiser le débat démocratique. Aucune info là-dedans, on le sait aussi. La France est à l'avant-garde du combat judiciaire qui vise désormais ses plateformes, et moi je dis. Eh bien, bravo. Voilà. Contre la toute-puissance des plateformes, la toute-puissance des GAFAM, la toute-puissance des réseaux, il y a deux voies. Il y a la voie politique, les lois, et il y a la voie judiciaire. Eh bien, je pense que on doit utiliser les deux. Et si les polémiques auxquelles Elon Musk est un fidèle abonné se muent en France en infractions pénales? Telle est la perspective ouverte par l'enquête préliminaire que mène actuellement le parquet de Paris. Dans ce cadre, le propriétaire du réseau social X est donc convoqué aujourd'hui à Paris, ainsi que l'ancienne patronne de la plateforme. On imagine toutefois mal l'homme le plus riche de la planète se présenter à cette audition libre, hein, il n'est pas obligé de venir, lui qui qualifiait encore en mars les procureurs français d'attardés mentaux. Eh bien, ce qui est reproché à Musk et à sa plateforme dépasse son impolitesse à l'égard des magistrats. Un algorithme biaisé afin d'influencer le débat démocratique en France. Un ciblage publicitaire problématique. En janvier, les investigations du parquet se sont élargies aux deepfakes, fausses images, à caractère sexuel et aux propos négationnistes relayés par Grok, le système d'IA 2X. Ce long chapelet d'infractions présumées, 7 au total, n'empêche pas la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet, la section J3, dont je vous ai déjà parlé ici, qui a une femme à sa tête, de garder la tête froide. Preuve en est ce choix d'interroger Elon Musk et Linda Yaccarino sous forme d'audition libre et non de garde à vue. N'empêche que ça aurait eu de la gueule. Enfin bon. Mais le ministère public pourrait changer de ton. Tadam. En janvier, cette même section. Pardon, je lis. Cette même section J3 avait requis des mandats d'arrêt contre les gérants de Kik, qui ne s'étaient pas présentés à leur interrogatoire dans le cadre d'une information judiciaire après la mort en direct du streamer Jean Pormanov sur la plateforme Kik à l'été dernier. La convocation d'Elon Musk à Paris, et plus largement l'enquête qui les vise, lui et sa plateforme, sont le signe d'un nouveau rapport de force. Entre réseaux sociaux et puissance publique, il ne s'agit plus seulement de réguler, mais de judiciariser, autrement dit, d'imputer des responsabilités. Donc c'est pas seulement la loi, c'est aussi la justice. Et moi je suis persuadé depuis un petit moment que ce combat contre les réseaux sociaux, les GAFAM, les dérives de tout ça, il peut se faire. Il peut se faire avec deux outils, la loi et la justice. Ces deux types d'actions sont complémentaires, explique la juriste Alejandra Mariscal López, directrice de l'association Point de Contact. La voie administrative, ce sont les enquêtes menées actuellement à Bruxelles, par exemple. La Commission européenne regarde la conformité au nom de ces entreprises au DSA, le règlement sur les services numériques, et met des sanctions en conséquence. Hein. Il y a eu des amendes qui commencent à tomber. Les premières ont mis du temps à tomber car ces enquêtes prennent du temps. En décembre, X a écopé d'une amende de 120 millions d'euros, mais a immédiatement fait appel. La voie pénale, elle se joue au niveau national, poursuit Alejandra Mariscal López. La justice doit déterminer si X a commis une faute grave, qui touche à l'ordre public et à l'intérêt de la nation, en l'occurrence, s'il laisse intentionnellement ses internautes diffuser des contenus illicites sans les contrôler.
Non.
Sur X ? X laisserait ses internautes diffuser des contenus illicites sans les contrôler ?
Jamais.
Bon, X, c'est le réseau de la désinformation, c'est le réseau de la fake news, évidemment qu'on le sait. Elon Musk encourt théoriquement jusqu'à 10 ans de prison. À l'international, une poignée de décisions judiciaires ont déjà été émises à l'encontre de ces plateformes. Ça commence, hein. Alors, les lois, les encadrements, les directives européennes, vous le savez, ça commence. En France, il y a à la rentrée une interdiction peut-être des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Voilà. Et puis, il y a des décisions judiciaires qui commencent à tomber. En mars, deux tribunaux civils américains ont lourdement condamné Meta et Google en Californie et au Nouveau-Mexique dans des décisions qualifiées d'historiques avec des amendes très très fortes. Mais à l'échelle de l'Union européenne, la France est à l'avant-garde de ce combat judiciaire. Cocorico, moi je pense qu'on peut... J'ai pas de cocorico. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai pas de cocorico moi ici dans ma petite boîte, ma sandbox. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? J'ai pas de cocorico. On va mettre autre chose. Ça n'a rien à voir, mais je vais vous mettre ça.
Mojito, que se pasó? ¿Hoy del paso? No, no, José. Ouais. No, no, José.
Voilà.
No, c'est bueno.
No, c'est bueno. Donc, la Marseillaise, oui, peut-être. Voilà. Mais en vrai, voilà, on est à la pointe de ça. Comme le dit Water Wasp, merci à tous les Français. Voilà. La France est à la pointe de ce combat judiciaire en Europe. Se félicite l'avocate Laure Boutron-Marmion qui se bat au civil, au pénal contre l'algorithme de recommandation de TikTok. Elle se réjouit que les pouvoirs publics aient peu à peu déplacé leur regard du contenu vers le produit. Cela fait plusieurs années qu'on discute du contenu, on demande aux plateformes de mieux modérer les messages et vidéos illicites qui y circulent. Or, elle reste sourde à cette demande. Nos institutions finissent par comprendre que c'est le produit digital, non madame, numérique, qui est dangereux à cause du modèle économique visant à capter l'attention des utilisateurs. Donc le premier réflexe a été de dire aux plateformes, bon, vous c'est pas de votre faute, hein, mais il y a quand même de la merde sur vos trucs là. Est-ce que vous pourriez un petit peu encadrer tout ça, pour que ce soit pas trop des dingueries notamment. Bon, et maintenant, comme le constate cette avocate, comme la modération n'a pas eu lieu, eh bien on se dit, le problème c'est peut-être l'outil en lui-même, et son algorithme, et ses intérêts financiers derrière. Des informations, contenus addictifs, harcèlement, tout cela est rendu possible par la dangerosité inhérente à ces services numériques. Et c'est une prise de conscience assez récente, confirme Arnaud Latil, maître de conférence en droit à la Sorbonne Université. Jusqu'à récemment, on les considérait encore comme des services neutres qui pouvaient être bien ou mal utilisés. Article dans La Croix de Méliné Le Priol. Et on voit qu'il y a un changement de regard qui est en train de se produire. Merci beaucoup Framboise, comment vas-tu ? Voilà, il y a un changement de regard qui est en train de se produire sur les réseaux, les algorithmes, les GAFAM, qui sont désormais considérés comme co-responsables, voire responsables, de ces dérives sur Internet. Je vous lis, et on enchaîne. On est dans les temps, à 9h, je vous abandonne comme des vieilles chaussettes. Taïa dit, il était temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, moi qui suis assez pessimiste en la matière, je trouve que là, il y a motif à espoir. Tout à fait. Alors, ça ne va pas faire plaisir à tous ceux qui se servent de X pour diffuser des fausses informations, des fausses nouvelles. On vous connaît, on vous voit, on ira vous chercher. Mais c'est positif. C'est cool que ça avance, ouais, exactement. Je suis là depuis 6h du matin, Cryptix, oui. Parce que j'ai un rendez-vous à 10h. C'est super d'avoir commencé plus tôt. Oui, mais ça pique quand même, hein. Alors, oh, regardez cet enchaînement. Regardez la qualité de cet enchaînement. On passe de des dangers des algos et des réseaux sociaux à est-ce que ça n'a pas, est-ce que les écrans n'ont pas des conséquences fâcheuses et funestes contre la lecture, notamment chez les plus jeunes. Comment, Figaro, les écrans tuent le goût de la lecture chez les jeunes Français? Alors, est-ce que c'est vraiment le responsable? D'ailleurs, je sais pas moi. Mais on va lire l'article. Comme je suis un amoureux de la lecture et de la littérature, j'aimerais bien inventer un jour un rendez-vous qui soit pertinent sur Twitch autour de la lecture et de la littérature, mais j'ai pas d'idée. J'ai pas de bonne idée. Un jour peut-être. Voilà. Là, j'ai voyagé, j'ai eu du temps pour réfléchir. Je trouve pas. Je trouve pas la... Tiens, on fait une pause. Je trouve pas la bonne idée. Je sais pas quoi faire. Je donnerais n'importe quoi pour avoir une bonne idée. Contact Ambre Chalumeau. Ambre Chalumeau. Sous forme de podcast? Oui, sous forme de podcast, oui. De stream, qui pourrait être un podcast. Ambre Chalumeau, tu dis? Ça me dit quelque chose. Pourquoi je connais? Un club de lecture? Ouais, comme beaucoup ont fait déjà, oui. Oui, mais un de plus, tu vois, quelque chose d'original. Oh, mon chalumeau. Ah, c'est un coup, je connais. Elle lance en 2024 liste de lecture, podcast littéraire où elle présente ses livres préférés. Ah, elle a écrit aussi. Elle écrit aussi. Waouh, c'est impressionnant. Ok, merci. Ah, je l'ai croisée sur le plateau de Quotidien. C'est ça? Hein. Ce serait le feu? Ah ouais. Je vais écouter son podcast. Ok. Tu peux faire de la lecture en direct avec débat sur certains livres. Quel type de livre te plaît? Avec des images, avec des grosses images. Et j'aime bien quand c'est écrit gros aussi. Je vois plus rien, moi. Tu pourrais adapter le concept de Samplay à la lecture. Tu as des streamers comme Presea ou Alpha qui lisent pas mal. Ah! C'est bon ça. Ah, je reçois un invité qui me parle de son livre préféré. Oh, c'est beau ça. Un Samplay littéraire. C'est pas con ça. Et ça, un podcast, c'est nickel, me dit Sugar. Les meilleures idées viennent toujours du chat. Je reçois un invité qui me parle de son livre préféré. Sam se livre. Ça me fait lire. Ouh! Hop, 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 hop. Attends, ça prend des captures d'écran, ça. Pas mal ça. Ça te fait un beau stream et un beau podcast. C'est pas mal ça. Moi, si tu veux, je peux venir en inviter pour parler d'un super livre qui s'appelle le Kama Sutra. Je connais pas. C'est quoi? Il y a Poca qui dit je travaille, mais je m'arrête pour dire que j'adore l'idée. Il faut que l'invité et ou toi lise un chapitre du livre. Oh, mais j'adore! C'est un quoi? Un livre très engagé avec des positions fermes? Le Kama Sutra, je connais pas. Ok, c'est pas mal. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Donc, je retourne à mon papier du Figaro. 8h11, ça va, il me reste un petit peu de temps. Comment les écrans tuent le goût de la lecture chez les jeunes Français? Face à l'omniprésence des smartphones, la baisse de la lecture est généralisée et touche même des catégories inhabituelles comme les filles, les 7-12 ans, les CSP+, lisons. Ou alors Samuel qui se rend dans des lieux dédiés à la lecture comme librairie, maison de presse, bibliothèque. Ah, oh, j'aime bien. Ah, oh, j'aime bien ça. Tiens, je pose un mini studio avec deux bons micros dans une librairie, dans une maison de presse, dans une bibliothèque, et viens me voir qui veut pour parler de livres, pour me parler de son livre. Pop, 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 pop. Pop, c'est beau ça aussi. Et la surprise, quoi. Et là, le fou du bus qui débarque. Pas mal, ça. C'est pas mal. Pas mal, ça. C'est bien aussi, ça. En organisant, en plus, une rencontre avec un auteur. Ben oui, puis il a fait l'artifice aussi. Puis les pop-pom girls. Hein ? C'est qui va bosser encore derrière ? Ouais, le problème, c'est que après, faut maîtriser le contenu, quoi. Alors moi, j'ai un livre que j'ai bien aimé, dont je voudrais vous parler. C'est le dernier livre de Jordan Bardella. J'ai beaucoup. Il y a du souffle. Il y a une plume. Il dit pas que des conneries. Allez, c'est ça. Tu maîtrises pas l'édito, quoi. Il y a de l'énergie.
Il y a beaucoup d'énergie. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Eh oui, tout ça, ouais. Lisons. Combien de temps les jeunes Français lisent-ils chaque jour? 18 minutes. Et combien de temps passent-ils sur leurs écrans? 3h10. Ah. Lecture, 18 minutes. Écran, 3h10 pour les jeunes. Le calcul est simple. Ils consacrent 10 fois plus de temps au monde virtuel. Voilà. C'est ce que révèle une nouvelle étude sur les jeunes et la lecture du Centre National du Livre. Menée auprès de 1500 Français, les jeunes, c'est quel âge? Âgés entre 7 et 19 ans. Ça veut dire qu'en dessous de 7 ans, vous n'êtes pas jeune, vous êtes, je ne sais pas, trop jeune. Et au-dessus de 19 ans, vous êtes des vieux. Toute personne plus de 19 ans dans ce chat, vous êtes des vieux, mais ça fait longtemps que je vous le dis. Des résultats catastrophiques, mais qui vont dans le même sens depuis 3 ans. Quand on les interroge, les 7-19 ans disent toujours aimer lire, 81%. C'est un fait qui résiste encore aux mauvais chiffres. Reste, ça c'est bien. 81% des 7-19 ans disent qu'ils aiment toujours lire, mesdames et messieurs. Reste qu'un tiers des 16-19 ans ne lit jamais. Les 16-19 ans, ça ne lit pas beaucoup, quoi. À quoi ressemble donc le jeune lecteur 2026? Il lit moins qu'avant, 40 minutes de moins qu'en 2022. Ah, quand même, hein, ça baisse. En moyenne, moins de 30 minutes. Il a du mal à lire et à comprendre ce qu'il lit, surtout entre 16 et 19 ans. Il lit majoritairement des BD, des mangas, des comics. Quant aux filles de 16-19 ans, elles plébiscitent à 17% la dark romance. Alors oui, c'est Samuel, le vieux qui juge. Oui, c'est écrit, mais est-ce que c'est de la littérature? En résumé, le jeune lecteur préfère regarder de courtes vidéos que lire, et s'il lit, privilégie les ouvrages avec des images ou ceux qui véhiculent des discours anti-MeToo. Merde. Il y a Fliou qui vient d'écrire « J'ai écrit une dark romance ». Merde. Je suis désolé. En plus, je juge, j'ai jamais lu, moi. Alors, vous savez quoi? Je vais m'y mettre, parce que là, je juge alors que je connais pas. La dark romance. Romance, je vois, mais dark romance. Dark. C'est un peu... Comment pouvez-vous expliquer à un vieux comme moi la Dark Romance? Olé olé? Avec du cul? Ok, d'accord. C'est basé sur une relation toxique avec du non-consentement? Et c'est bien ça? La nana tombe amoureuse d'un red flag ambulant? Et ça, c'est bien ça? Ça veut dire de la toxicité, violence ou autre. Ah. Ok. D'où le dark. Ah. C'est complètement toxique pour les jeunes, me dit Florel. C'est pour voir ce qu'il ne faut pas faire, me dit Mitsuhiko. C'est pas top, un peu problématique, mais chacun ses goûts. Malheureusement, c'est à la mode en ce moment. Ok, très bien. Ok, très bien. Typiquement la belle et la bête à base de séquestration et syndrome de Stockholm. Ok, très bien. C'est destiné à un public averti pour justement savoir séparer réalité et histoire de red flag. Oui, mais j'ai l'impression que c'est aussi lu par un public très jeune. Ok, très bien. Je continue. Peut-être à pas réserver aux plus jeunes, peut-être. Hein, à ne pas mettre entre toutes les mains, comme on dit. Comme certains magazines. Vous voyez ce que je veux dire? On vous voit, hein, les jeunes là, dans les bureaux de presse là, en train de faire mine de regarder Picsou ou les magazines de moto, et puis là, avec les yeux qui louchent là, en haut à droite, on vous voit, on sait très bien ce que vous faites, ça fait un quart d'heure que vous êtes là. Enfin bon, pardon, les magazines, mais ça m'en est plus en 2001, oui c'est vrai, oui. Pardon. Maintenant, vous avez tout sur Internet. Bande de cochons. C'est vrai. Ainsi, le portrait des 7-19 ans se redessine quel que soit leur âge, leur sexe et leur milieu social. Car ce qu'on comprend à la lecture de cette étude, c'est que la baisse de la lecture est multilatérale et couche... Et pff, là, ça, c'est la dark romance, ça. Et touche, pas couche. Et touche même les catégories inhabituelles comme les filles, les 7-12 ans et les CSP+, des publics qui, jusque-là, résistaient à l'hydre numérique. On se souvient de la mise en garde de Daniel Pénac, que j'adore. Dans Comme un roman, le verbe lire ne supporte pas l'impératif. Oui, mais supporte-t-il encore le présent? Car voilà, même quand les jeunes lisent, leur regard vole ailleurs. Ils envoient des messages, jettent un œil sur les vidéos qui, on le sait, sont truffées de fautes d'orthographe et consultent les réseaux. 41% des 7-19 ans sont concernés, un pourcentage qui grimpe à 67% des 16-19 ans. C'est là où la compétition avec les écrans devient de plus en plus forte, quoi. Ça a commencé très tôt aujourd'hui, ce sera comme ça toute la semaine. Ah non, balance. Ah non, c'est exceptionnel. C'est parce que j'ai un rendez-vous à 10h. Ah non, je me lève. C'est fini les réveils à 3h du matin. Pop, 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 pop. Non mais, trop vieux pour ces conneries, moi. Merci, j'original Pimousse. On pourrait se dire qu'il n'y a pas de mal, puisqu'ils ont quand même ouvert un livre. Oui, mais combien de pages lisent-ils quand ils le font? L'étude ne le dit pas. L'étude ne dit pas non plus les effets de cette fragmentation de la lecture. Or, ils sont nombreux. Genre, un bouquin et le téléphone à côté, quoi. Sur la qualité d'expression, d'abord sur les réseaux, ils consomment des écrits rageurs ou passionnels, égocentriques, souvent mal maîtrisés. Genre Trump. Pardon. Ils s'imprègnent ainsi d'un français malmené, n'ayant bénéficié d'aucune relecture, d'aucune attention. Se désole Jean Pruvot, auteur d'une soixantaine de livres de référence sur la langue française. L'œil va vite et plutôt que de corriger lecteur, de corriger l'erreur, eh bien il s'y habitue. En ce sens, poursuit le linguiste émérite, ces contenus ne sont en rien comparables à un livre ou un article de journal sur lequel on s'arrête, qu'on souligne ça et là. On est passé de la lecture enrichissante à la consommation abrutissante. Parce qu'on pourrait penser que lire les réseaux, c'est quand même de la lecture. Bah lui, il dit oui, mais non, quand même. Ouais. Sur l'orthographe, ensuite, la syntaxe, la ponctuation, l'orthographe et la grammaire des élèves s'en ressentent. Ceux qui lisent peu ont plus de difficultés à écrire. L'emploi des temps qui ne sont pas habituels à l'oral, comme le passé simple, l'imparfait du subjonctif ou même le futur simple, leur est étranger. Waouh ! Rappelons au passage que la littérature jeunesse se décline aujourd'hui au présent. Le Club des Cinq, par exemple, que j'ai consommé, moi, jeune, depuis une dizaine d'années, est expurgé du passé simple. et des descriptions à rallonge pour correspondre aux lecteurs d'aujourd'hui. Ils ont simplifié le Club des 5. Ah bah merde alors ! Y compris... Oh, c'est fou ça. Jean Pruvot le résume ainsi, il y a un lien flagrant entre la mémorisation d'une bonne orthographe et la lecture qui passe par le repérage des lettres, des graphies, des mots imprégnant consciemment ou inconsciemment notre mémoire. Cette expression pauvre, malmenée, désolé hein, pour les amateurs de dark romance, c'est aussi celle de la dark romance qui attire un public féminin de plus en plus jeune, en progression de 7% chez les filles des 13 ans. Non mais, 13 ans, la dark romance. D'après ce que vous m'avez expliqué, c'est non, non ? Pour rappel, ce genre littéraire inverse les codes du roman sentimental en y mêlant sexualité, violence, humiliation, emprise, viol, torture, relations toxiques. Ok. Autant dire que son auteur star Sarah Evans n'est pas la Jane Austen du XXIe siècle. Mais comme l'écrivait Oscar Wilde, dire qu'un livre est moral ou immoral n'a pas de sens, un livre est bien ou mal écrit, c'est tout. Ça, j'aime bien. Il y a peut-être de la dark romance bien écrite. Et relève implacablement Jean Prouvost, il est indéniable que la lecture de fiction très pauvre en vocabulaire ou à la syntaxe rudimentaire ne favorise pas la maîtrise enrichissante de la langue française. Je vous lis. Hein. Ce genre qui flatte les bas instincts pourrait amener à des lectures plus ambitieuses, c'est ce que tentent de faire les professeurs de français sans beaucoup de succès. Le propos des professeurs avec seulement quelques heures d'enseignement sont submergés par les messages, les textes, les littératures commerciales envoyées à jet continu sur les téléphones portables. L'attention volée aux enfants par les écrans inquiète jusqu'au sommet de l'État. Il y a The Cold Fire qui dit c'est l'article du tonton boomer react. Un peu. Mais pas tant que ça, en fait. Alors, je peux comprendre que ça fasse un peu... je vois bien ce gars, c'est dans le Figaro, c'est dans le Figaro. J'entends. Mais qu'est-ce qui est faux dans le constat, là? Qu'est-ce qui est vraiment faux dans le constat qu'on fait ici, là? Je pose la question. Au-delà du « c'est le tonton réac !» Là, après, c'est des chiffres, hein, de la baisse de la lecture chez les jeunes, c'est juste un... C'est mesuré, et vous n'êtes pas vraiment surpris. Il y a dark romance et dark romance, me dit Dragono, faut pas tout mettre dans le même panier. C'est la baisse de la lecture des livres au papier, pas de la lecture. Oui. Alors après, ce que dit l'article, c'est que cette lecture, ce qui est lu en dehors de des livres au papier, comme tu dis, c'est de moins bonne qualité, quoi. L'attention volée aux enfants par les écrans inquiète jusqu'au sommet de l'État. En fin de mandat, Emmanuel Macron en a même fait son cheval. Après, moi, je pense que le lien entre écran et baisse de lecture, il est erroné. C'est-à-dire que je pense qu'un enfant peut avoir une consommation raisonnée, encadrée des écrans et des réseaux. Enfin, des réseaux, non pas des réseaux, mais des écrans. Et quand même être un lecteur. Elisabeth Stilton dénonce le prisme de la lecture entre la bonne et la mauvaise lecture. Mon fils a un très bon vocabulaire, mais il ne lit pas. Je pense qu'il a une excellente mémoire visuelle, Elisabeth, je pense. Et ça, c'est une chance. Moi, grosse lectrice, n'est pas bonne en orthographe et grammaire depuis la petite enfance. Et c'est Internet qui m'a aidé à m'améliorer. Est-ce que lire le chat Twitch compte comme de la lecture si on ignore la masse de fautes? Alors, dans ce chat, je ne peux pas vous flatter bassement, mais c'est assez étonnant parce que les messages dans le chat sont globalement extrêmement bien écrits et il y a très peu de fautes. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Vous pourriez vous en foutre, en mode c'est bon, il va venir le vieux là. Mais en fait, il y a très peu de fautes dans les messages que vous postez. Ce qui est assez incroyable en vrai. Bah, sauf pour Plop à l'instant là. Il y a le correcteur auto ? Non. La preuve, c'est que t'as écrit correcteur avec un seul R. Pardon. Oh, le rire de con. Désolé. C'est quoi la moyenne d'âge de tes viewers ? 95 ans. C'est pour ça que je perds régulièrement des viewers, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent. Donc, l'attention volée aux enfants par les écrans inquiète jusqu'au sommet de l'État. En fin de mandat, Emmanuel Macron en a même fait son cheval de bataille. On s'habitue souvent, d'ailleurs, entre le début du stream et la fin, j'en ai perdu quelques-uns. Mais pas des gens qui sont partis sur d'autres streams. C'est des gens qui sont morts, en fait. L'attention volée aux enfants par les écrans inquiète jusqu'au sommet de l'État. En fin de mandat, Emmanuel Macron a même fait son cheval de bataille. On s'habitue de plus en plus à être sur un écran, à faire défiler des contenus très vite, des vidéos très courtes. On voit que c'est de plus en plus difficile même de regarder un film, de lire un livre, de se poser sur un texte. Mais c'est vrai, ça. Moi, je suis comme ça, moi. J'ai de plus en plus de mal à regarder un film. C'est vrai. A-t-il reconnu jeudi dernier devant des écoliers. Face à la génération qui a essuyé les pots cassés de la déferlante des réseaux sociaux, le chef de l'État a rappelé son ambition de les interdire aux moins de 15 ans. Pas les livres, hein, les réseaux sociaux. Oui, mais bien sûr, Killer Fox, t'as raison. Killer Fox dit « Mon fils de 11 ans consomme des écrans, mais on l'encadre. À côté de ça, il lit tous les jours. Voilà. Des mangas, des BD, des romans, il aime. Ne serait-ce pas de la responsabilité des parents que de mettre un cadre, de limiter les temps des grands, les accompagner, à s'intéresser à tout ce qui les entoure. » Oui, bien sûr. En complément, il a annoncé, le président, l'instauration d'une journée sans connexion une fois par mois et du retour de la lecture à voix haute en classe. Certains établissements et enseignants n'ont pas attendu ces consignes pour contre-attaquer, notamment en partageant des coups de cœur ou des listes de romans pour l'été, de belles initiatives au succès parfois limité. On est déjà content quand ils lisent les 8 œuvres au programme sur l'année, s'exclame Jean-Rémy Girard. Oui, enfin bon, on les connaît les œuvres, hein. Pardon, hein. Mais parfois, amis enseignants, c'est pas de votre faute, hein, c'est dans le programme, mais comment dire, les œuvres mises en avant en classe, l'amour de la littérature, de la lecture, il vient pas toujours de là, quoi. Alors après, c'est bien d'être ambitieux dans les programmes, mais hein, ça dépend. Mais Candide, putain, Candide, vous vous souvenez de Candide, hein? Merde, ça, tu... Hein ? Candide, non ! Rousseau, c'était chiant sa mère, quand même. Rousseau ! Alors, non, ne critique pas Zola, moi, j'adore Zola. Non, Bonheur des Dames, incroyable, L'Assommoir, incroyable. Mais les Confessions de Rousseau, non ! Tristan et Iseult en cinquième, encore trop mal, bah oui, ça, c'est non ! Les Confessions de Rousseau, c'est non ! Voilà, Kerman. Le Rouge et le Noir, désolé, quelle horreur. Le Rouge et le Noir, c'est magnifique. Mais pas à 12 ans, quoi. Même 14, même 15 ans. Hein ? Non. Ronsard, on n'en peut plus. Mais oui, mais Ronsard, c'est non. Oui, Stendhal en quatrième, c'est non. On est d'accord. Quoi ? Candide, je l'ai adoré autant gamin, mais va te faire foutre. C'est le mec, mais qui pète un câble. Mais va te faire foutre. Non, Maupassant, c'est incroyable, Maupassant. Maupassant, le hors là, c'est incroyable. L'autre. Ah, moi, j'ai adoré le Candide. Nous continuons. Mais c'est pas la faute des profs, c'est au programme, hein, ces trucs-là. Bah, moi, j'avais adoré Stendhal en quatrième. Mais va te faire foutre, Zahel, aussi. C'est vrai, c'est fou, ça. Ah, merci, Le Figaro, merci. Hein, Balzac, Zola, Hugo, certaines œuvres peuvent leur sembler difficiles aujourd'hui, notamment des romans du 18e et du 19e siècle. Au-delà du lexique, se retrouver devant un roman dense de plus de 200 pages avec une syntaxe plus élaborée que les livres jeunesse représente un saut qualitatif. Dans Balzac, j'adore Balzac, moi, j'adore Balzac. Mais Balzac, comment je lis Balzac? Prends le livre, t'as 30 pages de déclaration, de description. Je sais pas, moi, la pension Vauquer, là. C'est chez Balzac, ça, la pension Vauquer. Dans le Père Goriot, par exemple. Bah, tu passes, hein. Allez, hop, 40 pages, hop. Ah, un dialogue. Ah, ça va aller, hein. Les sujets abordés peuvent également leur sembler loin de leurs préoccupations. La moitié des 12-19 ans ne savent pas que les écrivains sont vivants et qu'il existe des œuvres contemporaines. D'ailleurs, souligné Régine Hatchondo, la présidente du CNL sur France Inter. Des livres qui... des jeunes qui n'ouvrent plus jamais un livre, Sabine Duflo en rencontre au sein de sa consultation pour les ados en difficulté avec les écrans. 16% des 7-19 ans seraient concernés. Et on bannit totalement la lecture de leurs loisirs. Beaucoup d'enfants entrent dans un cercle vicieux où les écrans prennent toute la place, notamment celle du sport ou la lecture. Les applications et les jeux vidéo en ligne qu'ils utilisent contiennent un mécanisme puissamment addictif qui est celui de la récompense aléatoire. Véritable casino numérique. Je passe mes nuits, moi, sur Archero 2, là. Bonne dope, ça. Hein. Ouais. Plutôt qu'à une belle série ou un bon film ou lire un bon livre. Voilà. Moi, je joue à des jeux mobiles, là. Alors, imaginez sur un cerveau de jeune. Déjà, moi, j'arrive pas à m'en sortir. Le jeu n'a aucun sens. Hein. Je passe mes nuits dessus. Hein. La dopamine quand tu passes un niveau. Bah oui, mais c'est de la drogue, ce truc. Hein. Beaucoup d'enfants entrent dans un cercle vicieux où les écrans prennent toute la place, notamment celle du sport ou de la lecture. Les applications aux jeux vidéo en ligne qu'ils utilisent contiennent un mécanisme puissamment addictif qui est celui de la récompense aléatoire, véritable casino numérique, explique cette psychologue clinicienne. Le scrolling infini surstimule l'attention réflexe. Cela empêche l'attention volontaire nécessaire à la lecture de se développer. Un enfant qui a passé une heure à scroller est incapable de lire. Mais oui, c'est vrai ça. Je lis, je suis en train de lire justement. Le rôle déterminant des parents dans l'incitation à la lecture, notamment le fait de lire des histoires aux petits, par exemple, devient plus difficile quand ces mêmes parents sont aussi happés par leur smartphone. Si 91% des 7-19 ans se rappellent qu'un de leurs parents, surtout la mère, leur lisait un livre enfant, ils sont 18% à déclarer aujourd'hui que leurs parents ne lisent pas de livres, surtout le père. 18% contre 7% en 2016. Les parents rivés en permanence à leur portable et à leur série qui conseillent à leurs enfants de lire, ça ne marche pas. Dis donc, il faut lire, hein.
Oui, comme toi.
Bah oui, ça marche pas. C'est ce que tacle une pédiatre, Sylvie Dieu-Ozica. En consultation, elle pose systématiquement la question aux parents des tout-petits, est-ce que vous lisez une histoire le soir ? J'ai beaucoup moins de réponses positives qu'il y a quelques années, constate-t-elle. Or, on sait que ces lectures à voix haute ont un lien direct avec l'acquisition d'un langage riche et structuré. Rien n'est plus bénéfique que la lecture partagée pour aider au développement de son enfant. Cette étape indispensable motive la lecture à un âge plus avancé. Les livres, rappelle-t-elle, c'est dès 6-9 mois. Ah, ça c'est un conseil concret. Pas mal. Tous les soirs, on avait ce rituel avec ma maman, me dit LifeBNJ, meilleur souvenir d'enfance. Je lis vos commentaires et vos témoignages. Ça c'est vrai, me dit Poppy Pop, je vois mes clients qui amènent leurs enfants à la librairie qui sont eux-mêmes des lecteurs et qui s'y intéressent et leur ont transmis ce plaisir de lire. Framboise, c'est vrai que ma maman me lisait tous les soirs des histoires et j'en lisais ma petite sœur ensuite. Ma mère me lisait des Tintins, me dit Mitsuhiko. en anglais la classe. Teddy Panda a raison, mais le problème des ouvrages d'époque, c'est pas leur syntaxe trop élaborée, c'est lié au fait qu'à l'époque, les gens ne s'exprimaient pas de la même manière qu'aujourd'hui. Il y a eu un saut depuis l'évolution de la langue française, c'est tout. Alors là, il me reste du temps ou pas? Oh, ça va, il me reste un petit peu de temps. Alors, il y a un monsieur qui parle dans le Figaro, qui s'appelle Xavier Laurent Salvador, qui est agrégé et maître de conférences en linguistique médiévale. Et lui, il a peut-être des conseils à nous donner. Et lui, il faudrait enseigner le simple plaisir de lire. Ça va peut-être aller dans le sens de ce que disent certains dans le chat. Que vous inspire la baisse continuelle du temps de lecture chez les jeunes? Est-ce qu'on peut rattraper le coup? Non, c'est fichu. Waouh! Mais je suis prêt à me battre, même si c'est un combat en pente glissante. Waouh, c'est fichu. Ok. Car je voudrais plaider en faveur des élèves et des plus jeunes. Oui, ils lisent moins, mais on parle d'une pratique de lecture qui est une pratique scolaire. Depuis quelques décennies maintenant, on a soumis la lecture du roman à une espèce de grille morale, idéologique. On n'enseigne plus pour le plaisir de lire, mais je cite la plupart des manuels scolaires, pour faire une expérience de l'autre, s'intéresser à la critique sociale, etc. On a réduit le livre à une fonction pédagogique et sociologique absolument déprimante. C'est intéressant, ça. C'est vrai que la littérature, ça doit d'abord être un plaisir. Et c'est, pardon, hein, mais ça, on ne nous dit pas ça à l'école. Hein. À l'école, on ne dit pas ça. Hein. C'est pour cela que depuis 20 ans, on répète à des élèves que Madame Bovary est une critique de la position de la femme au XIXe siècle. C'est absolument faux. En redisant le livre à une fonction, on a oublié sa fonction essentielle, l'imagination, le vertige, bienvenue Plus-Plume, c'est-à-dire expérimenter non pas la vie ou le corps d'un autre, mais expérimenter la communauté, l'universel, la grandeur, le vertige. Donc, mais il a raison, ce monsieur. Le premier critère de la lecture, ça devrait être le plaisir. Et ça, c'est un truc qui n'est pas assez mis en avant. Quand les jeunes lisent, ils font aussi autre chose sur leurs écrans. Est-ce possible de lire en envoyant des messages ou en regardant des vidéos? Non, dit le monsieur. Voilà. Si nos élèves sont des lecteurs en permanence, y compris sur les écrans, on a oublié qu'être exposé à l'écrit ne fait pas d'eux des lecteurs. Nous sommes en train de recréer un privilège de caste, dit-il aussi. D'un côté, on a des enfants issus de milieux dans lesquels on favorise la déconnexion, le droit à la déconnexion de l'enfance, et de l'autre, des milieux où les enfants n'ont pas le choix d'être exposés. Il est évident que cette fragmentation-là coupe complètement le rapport à la lecture longue, à la capacité d'investissement de l'esprit. Or, on ne peut pas lire un livre en étant soumis en permanence à d'autres signaux. Car l'exposition passive à l'écrit n'est pas la lecture. Les jeunes passent seulement leur temps à lire des signes. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Ah, Dark Romance, de retour. Les jeunes, surtout des garçons, 75% à lire des BD, des comics, des mangas. Les filles entre 16 et 19 ans lisent à 57% de la Dark Romance. Faut-il juger ce que les jeunes lisent? Que dit ce monsieur qui est agrégé? Bien sûr, c'est notre devoir de parents et d'éducateurs de juger de ce qu'ils lisent. Mais reprenons Baudelaire et son poème Une charogne. La lecture peut être extrêmement insidieuse. Vous savez, il y a un livre du milieu du XVIIe qui s'appelait Le roman bourgeois de Furetière. On le soupçonnait de tourner le sang et l'esprit des jeunes femmes qui le lisaient. Ça, c'est intéressant. Mais parce que c'est une réalité du roman. Nous fait entrer dans le cœur les plus bas instincts, les choses les plus perverses. On fait lire Madame Bovary aujourd'hui comme c'était un roman d'éducation, alors qu'il n'y a pas plus primaire, plus violent. Coquinette, hein, Madame Bovary, hein, quand même. Aujourd'hui encore, le lectorat se tourne vers des pulsions primitives. C'est normal qu'on les retrouve dans le roman, puisqu'il y a avoir le compulsif. Mais voilà où se situe notre problème. Il faut éduquer le compulsif pour qu'il devienne ensuite une jouissance dans la compréhension des objets du monde, et pas besoin d'aller jusqu'à enseigner la dark romance. Les textes vampiriques de Baudelaire font bien l'affaire. Idem pour les chants de Maldoror de Lautréamont, ou bien Wilde ou Poe. Alors, les chants de Maldoror de Lautréamont, c'est sûrement très très beau, pour les avoir un peu lus, mais c'est pas très accessible aussi. Joli. Ok. Intéressant cet échange. On peut au moins se mettre d'accord sur ça. La lecture doit d'abord être un plaisir. Salut Kashiro-san, mais tu as tout en replay, hein, t'inquiète. Mais Bovary, c'est illisible pour 80% des gens et surtout des jeunes. Tu veux dégoûter quelqu'un de la lecture, tu lui mets Madame Bovary dans les mains, me dit Tiparigo. Et tu as raison. Et pourtant, j'ai adoré Madame Bovary. Mais tu as raison. C'est un magnifique roman de Flaubert. Mais c'est pas par Bovary que tu peux faire tomber quelqu'un en amour pour la littérature qui ne l'est pas déjà, c'est sûr. Père Goriot, Trauma pour Olieu, magnifique roman, pareil. Mais tu ne fais pas tomber quelqu'un amoureux de la lecture et de la littérature avec le Père Goriot. J'ai eu un prof de français, fan de Tolkien, me dit Isten, à une époque où c'était encore souvent considéré comme n'étant pas de la vraie littérature, et qui avait bien compris qu'il fallait encourager à lire tout ce qui nous plaisait avant tout. Bien sûr. J'ai repris la lecture il y a 3 ans, me dit Neva, et maintenant c'est mon passe-temps principal et c'est devenu une drogue comme les autres, à savoir, j'ai du mal à travailler quand je pense seulement à lire la suite de mon livre en cours. La lecture, la littérature comme une drogue. La lecture comme une drogue. Salut mon Joe. Alors moi, président, en 2027, eh bien je légaliserai la lecture. Voilà. Boum. Et oui. Je ferai la chasse aux dealers. 2 livres. Pourquoi un stream si tôt? J'ai rendez-vous à 10h. Et plutôt que supprimer la revue de presse, je vous l'ai fait très tôt ce matin. Mon trauma à moi, l'assommoir de Zola. Magnifique l'assommoir. Mais là aussi, c'est. Tu commences pas, tu rentres pas dans la littérature avec l'assommoir, quoi. Qui du coup est un vrai assommoir. La matinée Étienne sur Twitch, il est 8h43, comme je sais que certains se préparent pour aller au boulot. Barjavel, j'aime bien Barjavel. Ok, merci en tout cas. Allez, on finit par du sport, mesdames et messieurs. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Cocorico. Je serai en forme, je chanterai la Marseillaise, mais faut pas déconner. On a 2 bonnes nouvelles en matière de sport. On a 1 tennisman français très en forme, c'est Arthur Fils. Voilà. Le fils de ses parents. Voilà. Vainqueur hier à Barcelone, c'est son 4e tournoi. C'est la une de l'équipe, mesdames et messieurs. Ce lundi matin. Voilà. Le français n'en finit plus d'impressionnant 2026. Vous savez qu'il revient de blessure. Voilà. Il peut désormais viser le top 10. Hey, c'est pas rien, hein. Et se tourner vers Roland-Garros avec gourmandise, parce qu'on arrive bientôt vers Roland-Garros. Voilà. Malgré une frayeur au moment de conclure, face à André Rublev. Hein. Arthur Fils a validé son retour au premier plan en enlevant son premier titre depuis octobre 2024. Victoire à Barcelone qui lui permet d'affirmer encore plus ses ambitions. Je crois que l'article parle de sa blessure notamment. Un an et demi qu'il n'avait pas gagné à un tournoi. Stoppé net dans son élan il y a bientôt 1 an à Roland-Garros. 14e mondial à l'époque. 14e mondial à l'époque. Voilà. Le temps de soigner son dos. Il a appris la patience et toute la frustration qui va avec le temps de soigner son dos. La version printemps 2026 étant désormais avec certitude une variante bien plus dangereuse que celle de 2025. Ils ont fait quoi, Vitality ? Dans le chat, j'en ai deux qui me disent « Ouais, mais non, ça s'en fout, ça, il faudrait parler de Vitality. » Ils ont gagné quoi ? En mots que je puisse comprendre, moi ? Attends, normalement, si c'est, si c'est l'info la plus importante de ce matin, ça devrait fuser, là, ça fuse pas trop, là. Un deuxième grand slam. Ok ? Slam, c'est le jeu que présentait Cyril Ferraud. J'ai aucune ref là-dessus, là. Ils ont merci Sugar. Ils ont gagné un tournoi de fou sur CS Counter-Strike. Ok, j'ai compris. Ok. Alors bravo Vita. Ok. Eh bien, félicitations à eux. Attends, est-ce qu'il y aura un article dans la presse? Parce que peut-être que l'équipe a fait un papier. Hein. Et hop, Figaro, 53 minutes. Mesdames et messieurs, ah, Figaro.fr. Je vais en réconcilier certains avec le Figaro. Vitality signe un deuxième grand slam sur Counter-Strike. Le club français d'e-sport Vitality a remporté dimanche le tournoi IEM, c'est comme ça qu'on dit, de Rio. Le club français d'e-sport Vitality a remporté dimanche le tournoi d'IEM de Rio sur le jeu vidéo Counter-Strike, victoire qui lui permet de s'offrir un deuxième grand slam ESL consécutif, ce qu'aucune équipe n'avait jamais réussi à faire. En s'imposant contre les Russes de Team Spirit au terme d'une finale à sens unique remportée 3 à 0. Ah, Ziwu ! Ah, mais je connais ça. Ah, il joue dans cette équipe ? Ah bah oui. Le club à l'abeille ultra dominateur sur le célèbre jeu de tir depuis 2 ans avait déjà soulevé les trophées de l'IEM Dallas, de l'ESL Pro League saison 22 et les IEM Cracovie ces derniers mois. Comme en 2025, cette quatrième victoire dans un tournoi ESL lui permet de remporter le Grand Slam. Donc c'est, ça, c'est Cyril Ferraud, je connais. Une des distinctions les plus prestigieuses dans l'univers de CS, récompensée d'un bonus $1 million, soit 850 000 euros. Ça vaut plus rien de dollars. Hein. Depuis sa création en 2017, seules 5 équipes avaient réussi cet exploit. Astralis, Team Liquid, Natus Vincere, FaZe Clan et Vitality. Et jusqu'à dimanche, aucune équipe n'avait réussi a signé un grand slam 2 années consécutivement. Comme le dit Daddy Boots, pas mal, c'est français. Les Français de Vitality, fleuron tricolore de l'e-sport, restent également sur une série de 2 victoires consécutives en Major, l'équivalent des championnats du monde. Voilà. Le club parisien aura l'occasion de remporter un 3e en juin à Cologne en Allemagne pour cimenter définitivement son statut de meilleure équipe professionnelle de l'histoire du jeu. Vita peut devenir la plus grande équipe ever sur CS. On peut dire ça comme ça ? Hein ? On peut dire ça ? Waouh ! Ça l'est déjà, me dit Sivoid. Et Ziwu clore le débat du meilleur joueur all-time, me dit Sugar. Incroyable. Il y a débat, mais on peut dire que c'est déjà le cas, me dit Yeliga. Très intéressant. Eh ben merci pour cette petite parenthèse sur Vitality. Grâce à vous, je suis au point sur l'actu. Je reviens à donc monsieur Arthur Fils, dont on attend maintenant, après le fait qu'il ait réparé son dos, la possibilité de briller à Roland-Garros. Hein. Depuis quand n'a-t-on pas vu un Français s'imposer à Roland-Garros depuis Yannick Noah, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a quelques temps. Un Roland-Garros pour un joueur français, c'est un peu comme l'Eurovision. On l'a fait, mais ça fait longtemps. Alors après, c'est beaucoup de pression sur ses épaules. Hein. Alors déjà, s'il fait un beau parcours, ce serait super. On l'a fait, mais seul le public de Saint-Étienne s'en souvient. T'es bête. Et après, on dit ça souvent, non? Et le français gagne pas? Oui, à chaque Roland-Garros. Ah oui, c'est le petit plaisir des médias français avant chaque Roland-Garros. C'est quel français... oui, un petit problème de montage là. Oui. Ils ont bouffé la moitié de la cuisse. Quel français, quelle française peut s'imposer à Roland-Garros? Voilà. Bon, voilà. Parmi les Français qui pourraient briller, il y a Arthur Fils. En tout cas, il semble en forme. Et ça n'est pas tout, puisque bonne nouvelle également dans la nuit pour un autre Français, mais c'est en basket cette fois. Voilà André Agassi. Oh, la pub, stop. Oh, André Agassi qui est en train de faire une pub. Attendez, je vous montre. André Agassi, l'ancienne gloire du tennis, en train de faire une pub pour un aspirateur.
Tu peux arrêter de dire son nom en entier comme ça?
Qu'est-ce que ça peut te faire, comment je l'appelle?
Ça va, détends-toi.
Je suis complètement détendu, mais pas autant qu'André Agassi.
Silvercrest.
Vous facilite la vie.
Ah, mais pas seulement pour un aspirateur, hein. Des trucs de cuisine et tout. C'est pas Nouna? Non, c'est Agassi. Moi aussi, je ferai ça plus tard. Immense champion, Agassi. Hein. Moi aussi, plus tard, je ferai des pubs pour les aspirateurs. Comme ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est... Hop. C'est Wembanyama qui vient de réussir ses débuts en playoff. La première fois qu'il participe à des playoffs, Wembanyama. Donc, on est avec la crème de la crème. C'est ici. C'était cette nuit. Et oui, parce qu'on a la pointe de l'actu ici. Même si on se lève très tôt, au playoff de NBA, Wembanyama et les San Antonio Spurs, les Spurs, hein, font une entrée fracassante. Le basketteur français et ses coéquipiers ont gagné leur premier match sur les 7 au total contre les Portland Trail Blazers. Il est chaud, comme dit Manu Bis. C'est une grande première réussite en playoff, puisque Wemby, Victor Wembanyama, avec 35 points. 35 points, le gars, hein, a largement contribué au succès des Spurs, 111-98. Contre les Portland Trail Blazers ce dimanche 9 avril. Faites pas attention à la pub. Le HuffPost est un bon site d'info. Mais il se finance par la pub. Donc, du coup, on a de la pub de partout. Voilà. Mais il faut lire au milieu. C'est simple, il faut lire au milieu. Voilà. Le phénomène français de 22 ans vient de franchir une nouvelle étape de sa carrière, comme d'habitude, à grandes enjambées, avec une entrée fracassante dans le nouveau monde des phases finales. Il est fort quand même. Hein. Conclu par 35 points, 5 rebonds, 2 contre et une domination quasi totale. Voilà. Après une première saison réussie, année 1, rookie de l'année, mais peu de victoires, une deuxième bien lancée, première sélection au All-Star Game, mais terminée dès février avec une thrombose veineuse, Wemby a intégré lors de cette troisième saison le cercle des meilleurs joueurs de la Ligue nord-américaine, et c'est français ça aussi, hein, au cœur d'un collectif au progrès fulgurant. Les Spurs sont en effet passés en 12 mois de la 13e à la 2e place de la Conférence Ouest, c'est incroyable, hein. Voilà. Et le Français de 22 ans candidate à la récompense individuelle de MVP, pour laquelle il fait partie des trois finalistes avec Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Voilà. C'est juste une question d'habitude, les pubs. Hein. Moi, je ne les vois plus. Hein. C'est juste, voilà, c'est une question de focus. Moi, je ne vois pas les pubs. Je ne vois pas la pub pour Burberry, je ne vois pas la pub, les articles sur... c'est quoi ça? C'est Burberry. Ça, je peux fermer même. Voilà. Je ne vois plus. Ça, c'est quoi? C'est l'Opel Grandland, je ne vois pas non plus. Si les Spurs retrouvent pour la première fois depuis 2019 les playoffs, ils font déjà partie des outsiders pour le titre auquel le français ne peut pas s'empêcher de rêver. Même pas besoin de trucs pour bloquer, les gars. Ça, c'est tout dans le regard. Tout dans le regard. Pas besoin. Incroyable. Ouais, je crois qu'on a pas d'image. On a pas les images. Et là, les articles. Alors si, pardon, Poppy, très bonne question de Poppy Pop. J'ai loupé le début de la revue de presse, mais il n'y a pas d'article sur la disparition de Nathalie Baye. Des articles sur la disparition de Nathalie Baye, il y en a dans tous les journaux. Mais moi, c'est une actrice que je connaissais pas bien, dont j'ai pas beaucoup consommé les films. Et cette revue de presse, elle est subjective. Voilà. Et elle parle de choses dont je me dis, ah, ça va parler aux gens. Oui, c'est la Une de Libération, par exemple, tout à fait. Ça va parler aux gens, ou alors, moi, ça m'intéresse. Et j'avoue que, bah, À tort ou à raison, je ne vous ai pas proposé d'article, mais il y en a plein ce matin sur Nathalie Baye. Il y a beaucoup d'hommages à Nathalie Baye. Voilà, notamment, c'est la une de Libé. Je peux vous la montrer d'ailleurs. Tenez. Très belle une, comme toujours. Libé, ils sont très très forts pour rendre hommage à ceux qui sont partis. Regardez comme c'est beau. Très belle une de Libération. Merci à tous. H. Gwen me dit merci pour le live plutôt ce matin. Ça m'a permis d'écouter sur la route de mon travail. Ça va, ça a enjolivé ma journée. Merci beaucoup. Mais ne vous habituez pas. Ne vous habituez pas. Tiens, je mets fin de live. Ne vous habituez pas parce que c'est exceptionnel. Hein. L'heure de la revue de presse, c'est 6h-9h ou c'est 10h-13h. Mais ce ne sera jamais 6h-9h. C'était exceptionnel. Comme je me suis engagé à ce que cette revue de presse soit quotidienne, même les jours où c'est compliqué. Là, à partir de 10h, je suis engagé sur d'autres trucs, notamment des histoires médicales. Voilà. Et c'était hyper important. Et il y avait un monde où je ne faisais pas de revue de presse ce matin. Et là, j'ai dit non. Je me suis révolté. Et j'ai dit, tant pis pour la nuit, ça va dormir rapide, mais on va faire cette revue de presse un peu plus tôt. Donc, l'idée, c'est que les jours où je ne peux pas la faire à 9h, 12h, ben, je la fais l'après-midi. Mais là, je n'étais pas sûr de pouvoir la faire. Ou je la fais le soir, mais là, je n'étais pas sûr. Voilà. Ou je la fais très, très tôt. Mathieu, on t'a mis un shout-out sur deux sujets liés. Mathieu qui gère la chaîne YouTube. Marseille, le phénomène des ados tueurs. Et si je fume un joint, ai-je du sang sur les mains? On a fait ces deux trucs. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ceux qui étaient là ce matin. Mais c'est vraiment exceptionnel. Mais l'idée, c'est que quand le 6-9 n'est pas possible, j'essaie de vous le faire quoi qu'il arrive à un autre horaire. Ok? Donc, je clique sur fin de la revue de presse. Je le fais jamais, ça. Tadam! Parce qu'en fait, il y a un onglet en bas, fin de live, que j'applique jamais. Voilà. Le 6-9, c'est toujours bien. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Parce que pour commencer à 6h, bah, il faut se lever. Trop tôt. Ça, c'était avant, ça. Ok, mais maintenant, on sait quel horaire. Ah bah maintenant, c'est 6-9 tous les jours. Hein. J'ai loupé toute la revue de presse. Et qui m'ose. Non, parce que tu as le replay. Sur Twitch, pour les abonnés. Sur YouTube, H+1. Et en podcast audio, aujourd'hui à 15-16h. Et oui, c'est ça qui est beau. Allez, j'y vais, je vous abandonne. On va faire un raid de bon matin. Merci encore pour ce matin. Alors, qui est en live ?
Pour de l'Aude. Alors, je ne sais pas si vous connaissez.
Ah, ça c'est cool. C'est intéressant. Il y a l'ami David qui est en live dans Au Poste. Voilà. Tout le monde connaît, j'espère. Hein. Alors, David qui est en plus en... Comment dire ? Qui est au cœur de l'actualité, parce que David, c'est un journaliste que j'ai connu à ITL très longtemps, ancien journaliste de Libération. C'est un écrivain aussi. Et c'est celui qui a déchiré son contrat d'édition devant les caméras de télé, dans une émission il y a quelques jours, dans l'affaire Grasset. C'est un des écrivains mobilisés contre les décisions que Bolloré a prises concernant la tête de l'éditeur. Voilà. Donc là, il est en live parce que c'est aussi un streamer. Il en fait des choses. Donc, sa chaîne s'appelle Au Poste. C'est aussi un spécialiste de la question des violences policières, par ailleurs, par exemple. Donc, on va raid David ce matin, parce que en général, quand je stream, lui, il a fini. Et donc là, c'est très très rare que je puisse le raid. C'est parti pour Au Poste. Vous allez voir, David, c'est un bon. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir Au Poste. Des bisous. Il y a un monde où ça se passe bien médicalement, mes histoires aujourd'hui, et auquel cas j'arrive à me reposer cet après-midi et à dormir un petit peu, et vous proposer par exemple un stream cet après-midi ou ce soir, mais ça, j'en sais rien. Au plus tard, on se retrouve demain matin pour la revue de presse. Je coupe la caméra, comme ça, il n'y a pas d'accident. Des bisous, je charge le raid. Et vous allez voir l'ami David, David Dufresne, journaliste, streamer, écrivain, déchireur de contrat, Bolloré en direct devant la télé. Et merci pour l'attention de ce matin. Promis, je ne vous réveillerai pas tous les matins aussitôt. Enfin, je le dis surtout pour moi. Des bisous, à très vite.